On va passer la parole à Eric Soudjevitch, que certains d'entre vous connaissent. Pour les autres, on va simplement le présenter comme quelqu'un qui a enseigné la Torah. Je pense qu'il fait aussi des traductions à ces heures perdues, mais pas perdues pour nous, pour les traductions qu'il a fait. Donc, on va aborder le second cycle du séminaire. Simplement, pour ceux qui n'ont pas on a un peu l'idée que, à partir des enseignements que nous donnaient les différentes acceptions du terme haché, quand on les a regardés, en démarrage, ce que Télim nous en donne aussi comme approche, on a un petit peu travaillé sur l'idée que le bonheur, c'était une construction dans ce monde-ci, mais en même temps avec l'idée de faire advenir un monde à construire. Donc il y a quand même toujours une dualité dans ce bonheur entre ce monde et ce monde qu'il faut faire advenir. Et cette dualité, le lien finalement qui touche les deux, c'est, on en a pas mal parlé sans vouloir définir cette notion très compliquée, mais c'est la Yirat Shamayim, la crainte du ciel, la crainte d'Hachem, qui permet de faire cette construction un peu duelle du bonheur. Bon, c'est une des façons dont on a eu ces enseignements sur Haché, déjà dans la première partie de ce séminaire. Voilà, donc là maintenant, dans cette seconde partie, on va continuer d'interroger les occurrences d'Haché. Donc là, on va voir de nouvelles occurrences dans Michelet. Peuvent paraître a priori, comme vous le voyez sur les intitulés des séances, un petit peu paradoxal, puisque Haché, heureux celui qui a peur, heureux celui qui a trouvé la sagesse, heureux celui. On va avoir là, je pense, des discussions avec des approches un petit peu aussi contrastées qui vont nous obliger à fouiller encore plus profondément les enseignements qu'on a autour de ce mot Haché. Voilà, donc la parole.
Voilà, moi j'ai préparé, disons, un certain nombre de points que je voudrais voir avec vous pour comprendre ce verset. C'est un verset effectivement assez paradoxal. Ce que je vais montrer, donc, on va regarder le commentaire de Rashi, du pseudo Ibn Ezra. On va comparer ce verset avec d'autres versets en Michelet dans le livre des Proverbes qui ont l'air de dire exactement le contraire. Et enfin, on terminera sur la Gemara qui nous donnera une lecture, disons, la lecture la plus cohérente du verset en question. D'accord ? Avant de commencer ces points-là, juste une mise au point du point de vue littéraire. On va lire ensemble le passouk en question et on va le traduire progressivement. On va le traduire, on va dire, sans s'engager trop, en laissant les choses suffisamment ouvertes, mais pour donner une structure assez bien, assez définie. Voilà, c'est marqué donc Ashrei Adam Mefaret Tamid. Alors, on traduit en général Ashrei par l'expression heureux. En hébreu moderne, par exemple, Osher, voilà, ça veut dire, on appelle ça le bonheur. C'est allé vite là pour l'instant. C'est allé vite. Disons, Ashrei, ça veut dire au départ, c'est une expression d'éloge. C'est un genre rhétorique particulier, l'éloge, comme on dirait en français. Bravo l'homme, heureux l'homme, au sens bienheureux, au sens gloire à l'homme, au sens. On va laisser de manière très très générale pour l'instant. Pour vous dire ça, je m'appuie sur le seul registre qu'on peut dire très clairement défini, c'est celui du Chumash. Ouais, dans le Chumash, je vous ai amené le passouk ici. Dans le Chumash, donc on utilise ce genre d'expression. Vous voyez, c'est à propos de la naissance de Asher dans le Chumash, lors de la concurrence entre Léa et Rachel. Alors, chacune, donc, elle a son mot à dire et son enfant à mettre au monde, etc. Dans cette concurrence, à un moment donné, donc, Léa dit, voilà, donc c'est Zilpa, pardon, qui la chifrate Léa, qui a engendré un enfant. Et donc, Tomer Léa, Boshri, qui ishruni banot, betikrachimo Asher. Boshri, donc le Targum, il traduit. Le Targum Nunkolos, il traduit ici, donc, tout simplement, voilà, Touche Bechata, voilà. Vama, voilà. Touche Barta Avali, qui arrive Kan, Ishapronani, voilà, le Banot. Donc, ça veut dire la chose Shevach. Shevach, en hébreu, c'est tout simplement l'éloge. Donc, quand elle appelle son fils Asher, quand elle dit Ishapronani, donc, Ishapronani Banot, elle veut dire les femmes, les vont me louer, elles vont faire mon éloge, elles vont dire ma gloire. Et a priori, donc pour l'instant, on va prendre le mot Ashrei dans ce sens-là, tout simplement pour dire quelque chose de très général. Quoi, il ne faut pas se tromper avec le français. Ce genre d'expression Ashrei Adam, etc., au départ, c'est l'expression d'éloge. C'est un registre rhétorique particulier. La seule restriction que je vais faire par rapport à ça, pour l'instant, donc, je veux dire, je ne suis pas engagé sur la question du bonheur, pour l'instant, ça paraît très loin. On peut dire à quelqu'un, ah, c'est très très bien ce que tu as fait, bravo, etc., même si il en sort très malheureux, il a fait une bonne action, par exemple, je ne sais pas. Donc, aucun rapport avec la question du bonheur. La seule restriction que je vais faire, c'est qu'effectivement, dans le Targum, la traduction, là, de Michelet, alors, ce n'est pas la même traduction, c'est pas... il traduit, lui, ici, donc, « Ashkadam Faret Tamid », voilà, « Tuvoi » de Barnacha, etc. « Tuvoi », c'est « Tuv », c'est le bien. Et ça nous rapprocherait beaucoup de la notion de bonheur. D'accord ? Mais pour l'instant, je vais laisser ça en perspective. Il n'y a aucune raison de dire, enfin, vu le contenu du verset, Ashkadam Faret Tamid, on dirait heureux l'homme, Faret Tamid qui est toujours dans la crainte, qui craint toujours. Heureux veut dire tout simplement bravo, super, c'est génial, c'est très très bien ce que tu fais. Hein. Très très bien au sens donc de l'éloge. On n'a pas dit que forcément il est heureux. Ok ? Et on verra si progressivement, celui-ci se dégage qu'il y a un rapport avec la question du bonheur. Alors, continuons. Donc, c'est marqué. On va accepter la traduction comme ça, générale, mais dans ce sens-là. Heureux l'homme, bravo l'homme, d'accord ? Très bien pour l'homme. Me ferait ta mère qui craint, qui est toujours dans la crainte, qui craint en permanence. Et le verset continue. Voilà. Omakshelibo, Yipol Bera. C'est un verset, donc, comme la plupart des versets de Michelet, construit en opposition. Makshelibo, donc ça va faire opposition à ce qu'on vient de dire au début. Makshelibo, c'est celui qui, au sens propre, c'est marqué, endurcit son cœur. Makshelibo, il endurcit son cœur, Yipol Bera'a, il tombera, c'est une prédiction, tombera, Bera'a, alors là, c'est embarrassant, dans le mal ou dans le malheur ? Pareil, même question, on va dire, que pour le mot Ashrei. En tout cas, ici, quand on dit Yipol Bera'a, alors ça nous rapprocherait d'une notion, on va dire, comme ça, de l'expression Yipol Bera'a, tomber dans le mal, en général, on veut dire effectivement le malheur. On ne veut pas dire qu'il va commettre des mauvaises actions en particulier. On veut dire qu'il aura un problème, qu'il va lui arriver des problèmes. Alors si on analyse l'ensemble du verset, ça voudrait dire heureux, et peut-être au sens d'un bonheur, ce serait bien pour lui au sens de, il en tirerait un certain bonheur, l'homme qui toujours craint, ou qui est toujours dans la crainte, et en contrepartie, il sera malheureux, celui qui endurcit son cœur. D'accord ? Je vous propose de le lire pour l'instant comme ça, mais en laissant très ouvert cette question, est-ce que ça touche vraiment à la question du bonheur ou pas ? Ok ? Voilà la structure de verset. Donc on peut s'appuyer sur les deux parties pour les faire s'éclairer l'une l'autre, puisque c'est un verset structuré par opposition. Alors ce passage qui pose des problèmes à peu près à tout le monde, parce que il y a un mot là qui ne colle pas, c'est le mot tamid. Ashrei Adam Mefached, c'est pas impossible, on peut toujours trouver une situation dans laquelle on dirait... heureusement, et peut-être même heureusement pour lui, qu'il a craint, qu'il a eu peur, je sais pas, qu'il s'est gardé, qu'il a pris des distances, qu'il a... Mais le mot tamid ici, il me paraît vraiment énorme dans le contexte. Énorme, parce que là, on fait une exposition très forte. On dit, heureux ou bienheureux, ou bravo l'homme qui toujours craint. L'accent est sur le tamid ici, toujours craint. Et en contrepartie, Makshelibo vient ici, on va dire, décrire l'extrême opposé. Celui, on dirait, par exemple, qui n'a aucune crainte. Ah, celui-là, c'est sûr, il tombera dans le malheur. Alors pourquoi dire tamid ? Ça c'est le point le plus crucial dans ce verset. Il faut, pour comprendre ce verset, il faut trouver une situation, un contexte qui permette de dire qu'il est question de craindre toujours. Alors voilà, regardez, donc moi je vous ai proposé, première chose, le commentaire de Rashi. Voilà, Rashi à mon avis... mais ne répond pas à la question. Rashi, à propos des mots Mefaret Tamil, voilà, il explique Doeg me onesh, ubkar mitrahek me avera. Que veut dire d'après Rashi, heureux l'homme qui toujours craint, ou qui est toujours dans la crainte? Il dit, c'est l'homme qui a un souci, une crainte constante du châtiment, ubkar, et en conséquence de ce fait, mitrahek me avera, il s'écarte de la vie. Donc c'est un homme qui vit toujours, on va dire comme ça, dans la peur que ses actes pourraient amener un châtiment, et donc vivant cette peur, ben, il évite absolument de commettre des transgressions, de mal se comporter, de mal se conduire. Alors c'est une direction de lecture, c'est très intéressant d'avoir que les Mefarshim sur place, donc Rashi et puis donc celui que j'appelle le Pseudo Ibn Ezra, ils ont pris une certaine direction tous les deux, et que la Gemara va prendre une direction très très différente. Donc la direction prise par Rashi, c'est simple, elle est, comment dire, bon, elle est très reçue, quoi. Il n'a pas inventé la poudre avec ça. Donc la, c'est l'idée donc qu'un homme qui se, comment dire, c'est ce qu'on appelle la hirata, hirataret depuis longtemps, quoi, disons, ou hirata onesh, il n'y a rien de nouveau à ça. Quand un homme a crainte du châtiment, on lui dit par exemple, si tu fais ça, bah, tu chayav mita, tu es condamné à mort, tu fais ça, je sais pas, tu auras pas de tu iras au guéhinnom, tu iras en enfer, bon, évidemment, il se retient. S'il y croit, il se retient. La seule chose qui ne va pas dans cette explication-là, et c'est vrai, comment dire, c'est opérant, je veux dire, il n'y a, pas de quoi se battre avec ça. La seule chose qui ne va pas ici, c'est pourquoi Tamid. Est-ce qu'il faudrait envisager une situation dans laquelle un homme, en permanence, craint les châtiments? En permanence. Ça ne colle pas très bien. Ça colle pas très bien. Il faut donner au mot Tamid, on va dire, un sens faible pour dire ça. Si on lui donne un sens faible, ça veut dire, il faudrait dire comme ça. On veut dire généralement, ouais, heureux l'homme qui généralement est dans la crainte. Ça veut dire se présente à lui une situation dans laquelle il pourrait, je sais pas, faire des bêtises, comment dire, même, peut-être même le regretter après, etc. Il se retient. Pourquoi? Hop, il s'est rappelé. Vous savez, il y a un Dieu qui juge et qui châtie. On pourrait dire heureux l'homme qui généralement, je sais même pas si généralement ça collerait très bien ici. Mais je dis bien que le commentaire de Rachid décrit une certaine réalité, on va dire, des êtres humains. C'est pas forcément d'ailleurs une réalité religieuse, hein. Il suffit qu'on mette un policier au coin d'une rue, ouais, vous verrez bien les automobilistes se conduisent très bien. C'est comme ça que ça marche. Simplement, il n'y a pas un grand ridouche, c'est vrai, il faut dire, c'est pas comment ça ne nous éclaire pas dans notre vie. Et en plus, je dis, le mot tamid ici, il faudrait vraiment le prendre dans un sens très très faible pour dire ça. On est toujours en situation dans laquelle, on va dire comme ça, le rappel du Honesh, le rappel, la mémoire du la remémoration, on va dire, du châtiment possible, qui fait qu'on a un juge qui nous. On n'est pas toujours dans ce genre de situation dans laquelle c'est opérant. On a des habitudes aussi. Hein, pas, comment dire, c'est pas. Ouais.
Je crois, en fait, on a besoin de dire que la moutabine de la faible. Si la personne n'est pas mésa, elle fait penser aussi, se sentir en permanence réplié par HM. Donc, du coup, il est dans une situation de tamine.
Ouais, alors là, il faut atteindre. Mais là, à ce moment-là, hein, il faut atteindre le deuxième. Moi, à mon avis, ce serait plus dans le deuxième. Ce que vous avez ramené au nom du Ibn Ezra, parce que c'est aussi on l'attribue toujours à Ibn Ezra, ah, vous l'avez vu pas ici. Ouais, bon, mais c'est pas vraiment un commentaire d'Ibn Ezra, peu importe. Mais il faut s'orienter vers quelque chose de l'ordre plus élevé, on va dire. C'est ce que lui il traduit en disant Mefaretamil min Hashem. C'est-à-dire, comme si quelque chose devait habiter en permanence mes pensées, c'est pas la Hirata Onesh maintenant. Ce que vous êtes en train de dire là, c'est. Supposer que par exemple mon esprit soit habité par le fait en permanence qu'il y a quelqu'un qui me voit, Enroat, Ozen Shomat, etc. Je vis en permanence dans ce contexte dans lequel je suis transparent, on me voit, il n'y a pas de pièce obscure où je pourrais me cacher, etc. C'est-à-dire, je vis en permanence en vérité avec une certaine idée de Dieu, mais pas forcément Dieu Onesh. Ouais, le Onesh, c'est ce qui viendrait se rajouter au cas où, dans certaines circonstances. Ça, c'est une autre démarche. Alors, pour l'instant, on va dire comme ça. Dans le commentaire de Rachid, donc. Je ne dis pas donc qu'il est faux du point de vue de la réalité, arrêtons, c'est bien que c'est comme ça. Mais il suffit de trouver quelque chose en face de nous qui nous fasse peur. Bon, c'est pas compliqué, chacun sa hiera, comme ils disent. C'est le même mot qui dit, comment dire, Hachem et la voix d'Azara, hein, dans ce contexte-là. Alors là, peu importe la hiera en question. J'ai peur du flic, j'ai peur du juge, j'ai peur de Dieu, j'ai peur d'une voix d'Azara, ça me tient. Bon, c'est chez nous, là, c'est un fait. Ça existe comme ça. Mais je dis simplement ici. Bon, ici, le mot tamid, il faudra en tout cas, on va dire comme ça, gommer, on va dire comme ça, l'aspect, cette espèce de mise en valeur du mot tamid. Vous savez, pourquoi donc, on va dire comme ça, l'autre commentaire s'oriente différemment? Parce que, en général, quand le mot tamid est employé, c'est toujours un sens très signifiant. Comme exemple, Shiviti Tachem Lenegdi Tamid. Ouais. Quand on dit Shiviti Tachem Lenegdi, j'ai placé Dieu en face de moi, tamid, en permanence. Je ne veux pas dire j'ai placé Dieu en face de moi. Bon, ça peut arriver qu'on pense à ça, qu'on soit préoccupé par ce genre de problème. Mais tamid, ça décrit une situation qui n'a strictement rien à voir avec une situation ordinaire. De temps en temps, je me rappelle qu'il existe un créateur. Non, tamid, c'est une avodah de tous les jours. C'est une avodah de chaque instant. Alors, si on doit interpréter c'est le tamid dans ce sens-là, enfin dans un sens fort en tout cas, pas le restreindre, il faut dire qu'on parle de quelqu'un qui aurait cette avodah, ce travail sur lui, d'être toujours dans la crainte. Alors, c'est pour ça qu'on pourrait s'orienter, par exemple, sur cette deuxième lecture. Deuxième lecture, elle consiste à dire. Donc il craint Dieu, Mais alors craindre Dieu au sens très très général, c'est-à-dire il a une certaine idée de Dieu, comme on va dire comme ça, il exige une certaine autorité, une certaine chose qui se représente, qui attend de lui du bien et pas le mal, très très généralement, et il vit en permanence dans cette idée-là, dans ces sentiments-là. Et c'est pas impossible alors d'expliquer le tamid de cette manière-là. Ashkadam faret tamid, il faudrait dire donc au sens le yirat Hashem, comme on dirait, donc pas yirat haonesh, on va dire plutôt dans le sens qu'on appellerait yirat haromemut, c'est-à-dire il y a quelque chose, disons, de très grand qui exige des choses de moi, et je suis en permanence dans ce rapport-là, dans ce travail pour avancer, etc. D'accord ? Je crois que ce commentaire, donc, il collerait mieux au mot, disons, de Ashre Adam Mefaret Tamid. Il collerait mieux au mot. Ouais ? Oui, mais c'est pour ça qu'on peut dire globalement. Mais quand même, c'est enlevé. Quand je vous dis donc le mot tamid a un sens fort, remarquez, peut-être que c'est moi qui exagère, mais parce que c'est toujours un rappel par rapport à Shiviti Tachem Negdi Tamid. Quand on décrit une attitude humaine et qu'on l'applique le mot tamid pour dire c'est elle dont on parle, alors on est obligé quand même d'attendre ici quelque chose de. Une certaine constance. Pas simplement, on va dire, une généralité, une constance. Comment dit-on, pardon, Korban Tamid. Korban Tamid, ça veut dire tous les jours, il y en a deux. C'est ça qu'on appelle constance. Ouais, c'est pas, comment dire, généralement il y a du Korban au Beit HaMikdash. Évidemment, il y a toujours du Korban au Beit HaMikdash. Mais on veut dire, Tamid, en général, c'est pour dire, comment dire, à Tadir, quelque chose qui est Kavua, qui a une constance, qui est, comment dire, qui constitue la trame, quoi, de ce qui se passe dans une certaine situation. Bon, mais en tout cas, vous avez sûrement des gens pour défendre Rachid, moi, je sais pas. Voilà, donc ça donnerait donc. Je dis, si on donne en tout cas un sens fort à Shkadam Fahdim, heureux l'homme, comment dire, qui est toujours dans la crainte, alors il faudrait rapporter ça donc à la crainte d'Hachem. Voilà, il y a un problème. Disons, jusque-là, si on avait que ce pasouk-là, on pourrait peut-être s'en arrêter là et c'est bon. 1h30, on a 8h30, on a fini, on s'en va. Juste ce qui ne va pas du tout, c'est que c'est le contenu lui-même. Dans Michelet, la crainte a très mauvaise presse. Très mauvaise presse. Ça veut dire que c'est une des attitudes, un des attributs, etc., qu'on attribue au fauteur. Et ça veut dire que ce serait le seul pasouk, le seul verset dans Michelet qui ferait l'éloge de la crainte. Alors je sais bien, on n'est pas forcément. Bien sûr, si on parle de la crainte de Dieu, etc., c'est très bien. Mais je vais vous donner, parce qu'on décrit une situation. Heureux l'homme qui toujours craint. Et en revanche, donc en contrepartie, on va dire comme ça, malheureux l'homme qui endurcit son cœur, c'est-à-dire qu'il ne craint pas. Alors, je vous ai ramené ici une série de psukim dans Mishneh. Alors, vraiment, j'aurais pu en prendre plein d'autres, mais j'ai voulu prendre ceux qui sont les plus signifiants, les plus connus par rapport à ça. Voilà, je vais donner il y a un autre passage où je l'ai mis ici. Michelet 29-25, la référence. C'est marqué Cherdat Adam iten mokesh ubotear ba'ashem yesugav. Voilà, le problème c'est qu'en général, dans Michelet, ce qu'on met en avant dans le rapport à Hachem, ce n'est pas ce qu'on appellerait nous la Yira, c'est le Bitachon. Et c'est pas du tout la même chose. Alors ici, par exemple, ce verset il dit comme ça Cherdat Adam iten mokesh. J'ai vu par exemple, c'est Adem Farshim qui fait cette objection, il dit c'est pas possible, qu'est-ce que ça veut dire ce verset donc Kherda, c'est Harada, la peur, la crainte, comme on dit Hared, quoi. Donc Yiten Mokesh, elle crée un Mirchol, elle crée un piège, voilà. Yiten Mokesh, la crainte, Kherdat Adam, la crainte de l'homme crée un piège. Et après ça se prend au sens propre, c'est-à-dire quand un homme vit dans la crainte, dans l'angoisse, Yiten Mokesh, c'est un piège pour lui. Ou Botéach Ba'Hashem, Yesugav, et qui est-ce qui est protégé, sauvé? Botéach Ba'Hashem, celui qui a confiance en Hashem, confiance en Dieu. Et donc pas du tout celui qui craint Dieu, celui qui a confiance en Dieu. C'est-à-dire, dans ce verset, on présente, alors on peut l'interpréter, hein, le verset, je dis bien, on peut dire que en fait ce qui craint c'est l'homme, il ne faut pas craindre les hommes, etc. On peut interpréter toutes sortes de choses. Je veux simplement remarquer que quand on veut mettre en avant on va dire comme ça, la relation qu'on doit avoir avec Hachem, par exemple dans un contexte de crainte, et je laisse ouvert, hein, je ne veux pas commencer à interpréter ce deuxième verset, je peux simplement remarquer, vous voyez, c'est bizarre, on nous parle de crainte, mais ça là-dessus, on est, pas la crainte, non, c'est pas ce qu'il faut. Ce qu'il faut, c'est ce qu'on appelle du bitachon, de la confiance, et de la confiance en Dieu. Ça, c'est le premier passage que je vais vous ramener. C'est juste pour vous remarquer, c'est une chose à laquelle on n'est plus tellement habitué aujourd'hui parce que c'est plus l'idéologie officielle, quoi. On ne parle pas comme ça. Aujourd'hui, on parle plutôt du côté Yirat Hashem. Mais dans les problématiques en général, comment dire, développées en particulier dans Michelet, c'est Bitachon Bashem, ce qui n'est pas du tout la même chose. Alors, je vais donner un exemple, vous allez voir. Donc, j'en ai ramené pour ça, j'ai ramené plusieurs psukim. Voilà. J'ai ramené une autre référence, un peu plus longue. Un Michelet au début, dans le troisième chapitre. C'est marqué comme ça. Hachem Bechokhma Yassadares. Donc, Dieu, je vous traduis vite parce que ce n'est pas notre Suga, je veux juste que vous ayez les idées en tête. Dieu a fondé la terre sur la Chokhma, ou en tout cas, il a fondé ce monde sur la Chokhma, sur la sagesse. Konen Shamim Bitvuna, bon, la même idée à propos du ciel. Le ciel était fondé par l'intelligence. Bedaato Teumot Nifkaou Shrakim Nifkaou. Bon, je vous épargne la suite. Donc en gros, ce monde est construit sur l'intelligence et sur la Chokhma, ça qu'Hachem a voulu. Ensuite il continue, donc du coup Bni Al-Yaluzu Meinecha, donc sous-entendu, souviens-toi bien de ça, que ce monde est construit sur la sagesse. V'yichayim Menafshecha, ce sera pour toi sera la vie de ton âme. Chen Al-Garotera, donc en même temps une parure quoi pour toi. Az Teler la bêtard. Alors tu iras la bêtard. Tu marcheras dans la vie avec assurance. Si tu sais que ce monde, et tu t'en rappelles, tu te soucies de ça, que ce monde est construit sur la sagesse, sur l'intelligence, Az Teler la bêtard, alors ton chemin dans la vie, tu le suivras avec assurance. Bêtard, c'est le même mot, bitachon. Veraglecha lotigov, tu ne trébucheras pas, tu ne tomberas pas. Imtishkav, quand tu te coucheras, lotifrad, tu n'auras pas peur. Tu ne craindras pas. Mais Shachavta Varvashinra, bon, tu pourras te coucher et ton sommeil sera doux. Et continue, Altira, mais Pachat Pitom, ne crains pas, comment on pourrait dire, Pachat Pitom, l'angoisse subite, quoi, la peur subite. C'est un avertissement. Ne crains pas les peurs subites. C'est comment dire, ces mouvements de panique. Alors, et ne crains pas lorsque le mouchoir, il a plein de sens, disons lorsque la calamité ou la rumeur, peu importe, lorsque on va dire le malheur des Rechaïm vient, ne crains pas, tu n'as rien à craindre. Qui Hachem yibéchis lecha veshama raglecha milaked, parce que Hachem, donc il sera lui ton bouclier, c'est lui qui te protégera, et il veillera à ce que ton pas, ça veut dire maintenant tu vis, ton mode de vie, mais la quête qui tombera, encore une fois c'est le même mot, la quête c'est comme Mokesh, c'est un piège. Donc il veillera à ce que toi tu ne tombes pas dans le piège. Regardez bien la structure d'une chose pareille dans Michelet. Le monde est fondé sur la sagesse, tu ne dois pas l'oublier. Si tu penses bien, si tu comprends bien, alors tu suivras ta vie, tu suivras ton chemin avec assurance. Tu n'as pas à craindre des valeurs subites qui vont te tomber dessus, etc. Pas du tout. Pourquoi ? Parce que, il faut compléter le verset. Si tu penses vraiment comme ça et tu te conduis vraiment comme ça, alors Hachem Yibekis Lecha, Hachem il sera ton protecteur. Et tu ne trébucheras pas, tu ne seras pas pris au piège par les situations. En général, l'idée, ça veut dire que, très rapidement, quand on parle de Farshim, c'est que donc, l'idée du piège, c'est que quand un homme faute, il n'arrive plus à s'en sortir. C'est pas forcément l'idée de la faute en tant que telle. On peut fauter et s'en sortir, c'est-à-dire ensuite faire tchouva, retrouver un certain chemin. Quand on parle de piège, on veut dire on peut s'enferrer et s'enfermer dans une faute. Ce qu'on dit ici, c'est que si tu comprends bien que le monde est fondé sur la sagesse, tu ne peux pas voir ton avenir comme étant complètement scellé, clos, parce qu'il y aurait une faute ou parce que tu aurais fauté. On dit le contraire. On veut enseigner ici le bitachon. On peut s'en sortir. Et l'idée, c'est si tu comprends bien que le monde est fondé sur l'intelligence, tu t'en sortiras et tu marcheras avec assurance. Voilà, explicitement Altira, ne crains pas. Ouais, il y en a beaucoup d'autres, hein, comme ça, sur ce mode-là. Alors je dis, quand on fait le bilan de Michelet, on se trouve qu'il y a un pasouk un seul qui dit, qui fait l'éloge de l'homme qui craint. Je veux dire qu'il fait l'éloge de l'homme qui craint sans préciser quoi, de quoi, ni comment. C'est quand même une chose assez inouïe. On ne sait même pas de quoi il craint. Alors, c'est pour ça que les mefarchim rentrent un petit peu dans le circuit. Mais un pasouk qui fait l'éloge de la crainte, alors que quantité d'autres disent au contraire que non, non, la crainte, la crainte c'est un piège. La crainte c'est quelque chose qu'il faut éviter. Et d'ailleurs, le vrai rapport avec Hachem, c'est un rapport de bitachon, un rapport de confiance. Voilà, alors voilà le problème. C'est le problème sur lequel il faut réfléchir. C'est comme si, je veux dire comme ça, disons, on va opposer deux types de rapports par rapport à Hachem, un rapport de crainte et un rapport de confiance. Quand je dis Hachem, c'est par rapport, encore une fois, ce sont les commentateurs qui le rentrent, ça. D'accord ? C'est marqué simplement le passou, Ashrei Adam, Mafachet, Tamid, point. On ne dit même pas de quoi. Alors je dis, quand on essaye de dire, c'est de justifier ce passou, c'est quoi cette chose ? Un homme, il devrait toujours être dans la crainte. Alors non seulement on se heurte au sujet, ça veut dire crainte de quoi ? De qui ? Comment ? Peut-être de Dieu, ça pourrait aller. La seule chose qui ne va pas, c'est que dans Michelet, on nous présente à chaque fois l'aspect inverse. Alors qu'est-ce qu'on veut dire ici ? Pourquoi la démarche de Michelet, elle est, on va dire comme ça, dans ce genre de problème, de, je dis très franchement, donner une mauvaise presse à la crainte, et d'accentuer plutôt, de relever plutôt, on va dire, au contraire, si on doit trouver une place, on va dire comme ça, pour la question du bonheur, je pourrais tourner autour de ça, alors c'est plutôt dans l'assurance. L'homme qui précisément a assuré que Dieu ne te laissera pas tomber, que sa vie ce sera pas une gigantesque impasse, qu'il s'en sortira toujours, et à ce moment-là le test lui fournit les matériels pour ça. Mais là-bas c'est ça. Si on devait dire par exemple quelqu'un qui est nous-mêmes, si on devait dire quelqu'un qui est heureux, je sais pas, bien juste des évidences ou bien le contraire, on dirait pas que est heureux celui qui vit dans la crainte en permanence, celui qui vit dans la confiance. C'est l'évidence même. Hein. Si tout le monde est d'accord, il n'y a pas de problème. Donc c'est pour ça que je suis extrêmement étonné, je dis franchement, par ce passage. Aussi bien, on va dire, du point de vue du contenu littéraire, je vous dis, par rapport à l'ensemble de Michelet, ça ne colle pas très bien. Et ce n'est pas par hasard. C'est pour ça que je rajoute, ce n'est pas par hasard. Si on doit faire, peut-être qu'on peut faire, si on parle en termes, on va dire comme ça, de faire simplement faire l'éloge de quelqu'un, l'éloge, ça veut dire pas forcément qu'il est heureux, quelqu'un, je ne sais pas, qui accomplit un grand travail sur lui-même, ou je sais pas, il réalise une grande chose pour l'humanité, peut-être qu'il en est très malheureux, j'en sais rien. Et peut-être qu'il a beaucoup souffert, peut-être que peut-être qu'il n'a aucun sarar de ça, peut-être que rien ne lui reste de ça, mais je ne sais pas. Mais on pourrait faire l'éloge, dans ce sens-là, de l'homme qui serait toujours dans la crainte, à condition qu'on nous dise de quoi et pourquoi. C'est ça qui manque. C'est quand même curieux que, comment dire, il faut attendre un mefarech pour nous dire, on parle d'Hachem, vous savez, on parle d'Hachem. Enfin, quoi, c'est pas indifférent ici, il fallait le dire quand même. Mais c'est pas impossible, disons. Moi, je ne veux pas qu'on dise, il y a des mefarech pour le dire, alors, voilà, ça rentre. Simplement, ça me surprend, je dis encore une fois, par rapport à la fois à la forme littéraire, quoi, enfin, on va dire comme ça, au registre littéraire en général de Michelet et par rapport au contenu. Si, sur les deux plans, si on devait dire, donc, si on devait parler plutôt du bonheur, alors il faudrait l'associer avec la confiance. On ne connaît aucune situation de la vie, hein, très franchement, c'est-à-dire, dans laquelle la crainte est significative de bonheur. Ça ne correspond à rien. Imaginez, on vit avec quelqu'un et on va dire heureux celui qui est toujours dans la crainte. Pas du tout. On est heureux avec quelqu'un quand on a la confiance. Dans la crainte, ce serait un enfer. Voilà, c'est un peu un paradoxe, hein, cette idée, disons, d'associer le bonheur à la ira. Sauf si on dit à la ira, alors un tout autre sens qui n'a absolument rien à voir. Mais c'est un peu un paradoxe. Quoi. C'est pas le sens premier pour un être humain de dire que dans la ira, dans la crainte, il est heureux. Sauf, encore une fois, si on prend le mot heureux, alors dans tout sens, au sens où on fait simplement l'éloge de quelqu'un. On dit c'est un gros travail qu'il a fait. Bravo, c'est bien, super, t'es un géant, t'es quelqu'un de... Mais enfin, pas heureux au sens... Non, pas heureux. Quoi. Pas du tout. Enfin, bon. Voilà, alors donc, bilan. Moi, quand j'ai commencé, comment dire, avec ce pasouk, je l'ai trouvé, en fait, difficile à comprendre. Vraiment difficile à comprendre. Difficile à comprendre pourquoi il ne dit pas de quoi il parle exactement. difficile à comprendre ensuite dans son contenu. Du point de vue humain existentiel, ça paraît complètement en décalage. Par exemple, quand on dit Shiviti et Hachem Ditamid, j'ai placé Hachem en face de moi en permanence, on ne dit pas forcément qu'il vit ça dans le régime de la crainte, de la terreur, de l'angoisse. Sinon, on imagine quand même qu'il n'est pas très heureux, quoi, monsieur. Il fait des choses comme elles sont, quoi, ou pas très heureux. Alors on imagine donc Shiviti Hachem, ça veut dire qu'au sens qu'il a, il y a quelque chose ici qui le remplit, quelque chose qui lui donne consistance. Pas simplement quelque chose qui en permanence lui fait peur. Voilà. Alors, quelque chose qui m'a délivré de ça, c'est la Gemara. Et la Gemara, vraiment, elle rentre là-dedans avec. Avec, à mon avis, pour nous, ce qui représente vraiment une violence. Une chose auquel on n'est pas du tout habitué. En fait, la Gemara va développer le thème qu'on vient en train de développer. Ça veut dire cette question du bitachon, de la confiance en Dieu d'un côté, et la question donc de ce pasouk-là. En fait, elle est développée. Et mais là, c'est comment dire, l'affirmation de la Gemara pour essayer donc de donner une place à chaque chose, au bitachon d'un côté, à l'assurance d'un côté, à la confiance, à la crainte de l'autre. Ça conduit quand même à une chose qu'on est, comment dire, je suis pas sûr qu'on est à la hauteur, quoi, de la Gemara en question. Ça nous paraît très loin. Là, voilà. Alors, je vais relire la Gemara et on va essayer de donner un peu de sens. Voilà, ça commence comme ça. C'est une Gemara donc dans Brachot. Voilà, Maase Belezake. On rapporte c'est une histoire, mais quand on dit Maase, ça veut dire une histoire qui a eu lieu. C'est pas une agada au sens, on va dire, Maase. Donc ça veut dire il s'est produit cette chose-là. Ça a eu lieu. Donc c'est l'histoire donc de Hillel HaZaken. Donc Hillel l'ancien, c'est-à-dire celui que nous on appelle Hillel. Voilà. Baba Derer, donc il était en chemin. D'après le contexte, donc on comprend qu'il retournait chez lui, quoi. Il revenait dans sa ville. Donc il était en chemin et voilà. Shama Kol Savar Bahir. Donc il entend une comprenez ça, donc un grand cri, je suppose, une rumeur comme ça, un truc qui s'enfle comme ça, un cri. Donc il s'approche de la ville, c'est la ville où il habite, il entend, oui, je sais pas, des cris, enfin, je sais pas, les sirènes de pompiers, les ambulances, quelque chose comme ça, enfin pour l'époque. Voilà. Amar Mouftar Ani Shense Betor Beiti. Dis-moi, Mouftar, c'est le mot bitachon, encore une fois, le mot confiance. Moi, je suis assuré. Je suis assuré, dit-il, Shenze Betor Beiti, que ça, ces pompiers, ces ambulances, etc., ça ne concerne pas ma maison, ça ne concerne pas ma famille. Voilà, je suis sûr. Il ne sait rien encore. Il s'approche de la ville, et comment dire, il entend une rumeur, un truc comme ça, il s'est passé quelque chose, c'est grave, etc. Et il dit, oh, moi, je suis sûr que ça ne me concerne pas, ça concerne pas ma maison ni ma famille. Voilà. Voilà, Bakatou Vomer, et c'est et donc ça, on applique sur lui, la Gemara vient et dit, sur lui, on applique ce passouk, donc, Mishmoara, Loira. Il ne craint pas les mauvaises nouvelles. Il ne craint pas les mauvaises nouvelles, à l'avance. Il voit quelqu'un de paniqué qui court vers lui, alors chacun pense quoi, qu'est-ce qui m'est arrivé, je sais pas, à ma femme, mes enfants, les machins, ouais, qu'est-ce qu'on va penser? On entend un truc, des grands cris dans la ville, le feu, le machin, etc. Qu'est-ce qu'on pense? On court tout de suite vers sa maison, d'accord? Mon Dieu, qu'est-ce qui a pu arriver? Bah lui, pas du tout. Et lui dit, non, moi je suis sûr que c'est pas chez moi. Alors à lui, on dit, donc, Mishmoara Loira, donc on applique ce passage donc, de Tehilim à Hillel, on dit, oui, c'est un homme auquel on peut dire, Mishmoara, donc il ne craint pas les mauvaises nouvelles. Nachon Libo, son cœur est Nachon, donc bien fixe, bien assis, bien solide. Batouar Bahachem, il est. Je ne sais pas comment dire parce que c'est un parti de passé. Il a confiance en Hachem. Son cœur est bien solide, il est pas convaincu par Dieu, je ne sais pas comment dire, en parti de passé. Quoi. Il est assuré de Dieu, on pourrait dire comme ça. Batouar Bahachem, assuré de Dieu, il a confiance en Dieu. Voilà. Ça, c'est le début de notre Gemara. Voilà. Bon, on va aller jusqu'au bout. Moi, je vous ai sauté un petit passage là, pour pas. Donc, ce n'est pas la peine de le voir. Bon, je l'ai mis pour ceux que ça intéresse, disons, parce que je ne peux pas lire toute la Gemara. Voilà. Juste après ça, donc la Gemara rapporte le Massé. Bon, elle a une analyse un petit peu pourquoi on lit le passage dans ce sens-là ou pas, mais ça ne nous intéresse pas. Ça fait pas neuf caméras. Elle continue, donc voilà. Et juste après, donc elle ramène donc une autre histoire qui va être donc complètement à l'opposé de ça. Elle dit Aou Talmida, Davaka Azil Batre de Rabbi Ishmael, de Rabbi aussi. Donc il y avait un Talmid, donc je suppose c'était l'élève de Rabbi Ishmael, de Rabbi aussi, qui marchait derrière lui. D'après le contexte, on comprend qu'il traversait la ville, etc. Donc il marchait derrière lui, ce Talmid, ce disciple. Beshuka de Tzion, dans le marché de Tzion. Donc il traversait le marché de Tzion. Voilà. Chazia de Kamafrid. Alors, son maître, quoi, Rabbi Ishmael Barabi aussi, il voit que ce Talmid, il est comment dire, dans la crainte, quoi. Il a peur. Alors, je ne sais pas ce qu'il a, il rasait les murs, je ne sais pas exactement qu'est-ce qu'il a pu voir. Où il se protégeait, où il regardait partout. Enfin bon, il vit dans la crainte. Il voit qu'il est dans la crainte. Alors lui dit Amalé Khatat, il dit mais quoi, t'es un fauteur toi, t'es un pêcheur. C'est le genre, t'es rien du tout quoi, qu'est-ce que c'est cette histoire là, qu'est-ce que tu fais là? Dirtiv, Pachadou Betzion Khataim. Bon, il joue un peu sur les mots. Parce que comme c'est le marché de Tzion, alors il utilise Pachadou Betzion à Pasouk, donc que les fauteurs tremblent à Tzion. D'accord? Bon, c'est un Pasouk de Nevoa. Il joue un peu sur les mots, mais il veut lui dire qu'est-ce que t'as à craindre? Il n'y a que les fauteurs qui craignent.
Il n'y a que les fauteurs qui craignent.
Ah ouais, s'il n'a pas fauté, il ne craint pas. Qu'est-ce qu'il a à craindre? C'est toute la question. Alors, dis quoi, t'es un fauteur, toi? T'es quelqu'un qui traîne une ardoise énorme derrière toi, que tu rases les murs, t'as peur qu'on te tombe dessus? Ouais? Alors, le Talmud lui répond, il est malin, il dit, va marler, va active, mais il est écrit, Ashre Adam Faret Tamil. Mais on a inversé dans Michelet. Heureux l'homme qui toujours craint. Voilà. Donc, il a réponse normalement à ça. Normalement, on aurait dû s'arrêter là et dire, bah, Marloket, j'en sais rien. Bah, même si c'est un Talmid, on peut s'arrêter là, Marloket. C'est vrai, c'est marqué Pachadou Betzion Chataim. Quand c'est marqué Ashrei Adam Faret Tamid, on devrait s'arrêter là. On devrait dire, voilà, il a clos la bouche de son maître, disant, c'est vrai ce que tu dis, mais c'est vrai aussi ce que je dis. Il n'y a pas que la crainte du châtiment dans la vie, il n'y a pas que les fauteurs qui craignent. Il y a une autre crainte. Une crainte qu'on peut habiter en permanence. Mais alors, son rave, il n'accepte pas du tout. Et ça va clore le débat. Je dis, ça fait partie du problème qu'on a posé. On aurait pu en rester là en disant, oui, comme par rapport au Michelet, bon, ben, il y a un enseignement sur le bitachon, sur la confiance, là, comment dire, qu'on peut avoir vis-à-vis de Dieu, et puis il y a un enseignement sur la crainte. On aurait pu en rester là. Et dire, voilà, bon, ben, peut-être que chacun, c'est vrai que les fauteurs, ils doivent craindre, mais ben, c'est aussi la place pour une autre forme de crainte. Et voilà, ce Talmud-là, pourquoi le Rav brouille? Eh ben non, le Rav, il n'en veut pas. Dit à Marley à Oub Divretora active. Quoi? Voilà, il dit non, pas du tout. Ce pasouk là, alors c'est le. Bon, c'est la conclusion à laquelle on va arriver, ça va nous prendre un petit moment. Divretora active, non, ce pasouk là, il parle pas de ton problème, il parle pas de ce que tu vis maintenant, il parle des Divretora. Il parle à propos des Divretora, des paroles de Torah. Voilà, comme si, donc on s'est entendu, c'est comme si, on va dire comme ça, le Rav a jugé que l'attitude du Talmid est complètement inadaptée, l'ordre de propos. Il y a un pasouk, mais alors vous voyez, donc ça veut dire, on va faire la chose suivante. C'est ce qu'on appelle chez nous une sorte d'ukimta. Ça veut dire, ce pasouk de Ashrei Adam Faret Tamid, ce heureux l'homme qui toujours craint, il dit, il y a un domaine bien particulier sur lequel il est vrai. Mais pour le reste, en particulier par exemple ton attitude, tu rases les murs ou tu as peur qu'on te frappe, je ne sais pas exactement, pour le reste, c'est absolument pas pertinent. Et pour le reste, ça s'appelle Pachadou Betzion Chataim. D'accord? Donc, on va dire comme ça, le domaine. Comme on fait une Ukimta en général dans la Gemara, ça veut dire on prend une parole, on dit non, mais elle n'a pas une vérité générale. Elle est vraie, cette parole, à tel endroit, dans ce genre de contexte, voilà là où elle est vraie. Alors, la Gemara, donc, nous dit le contexte dans lequel cette parole de Michelet est vraie, c'est Bedivre Torah Ktiv. Donc, à propos des paroles de Torah, c'est là qu'il est pertinent et c'est ça l'enseignement. C'est là qu'il est pertinent de dire heureux l'homme qui est toujours dans la crainte, qui craint toujours, c'est-à-dire dans le rapport avec les paroles de la Torah. C'est donc une situation, on va dire comme ça, plutôt d'étude, de limoud. En revanche, c'est ce qui ressort cette Gemara, en revanche, dans la vie, on traverse un marché, ah ben non, c'est pas du tout là, il n'y a que celui qui vit en... Mais si on peut toujours avoir des craintes, hein, je veux dire, si on a trois malabars qui s'approchent avec des barres de fer, on dit oulala, évidemment. Mais là, c'est motivé. On rentre dans une situation. L'idée, c'est avoir peur a priori parce que je traverse le marché, qu'est-ce qui peut m'arriver? Ou avoir peur, je sais pas, parce qu'on fait telle entreprise, etc. On dit non, ça c'est pour les ratayim. Ça c'est pour les gens qui ont des choses à se reprocher. C'est vrai que tu dis, mais quoi, tu as des choses à te reprocher? À ce point-là, voilà, vraiment. Vous voyez, si on est l'agmara, ça s'articule comme ça. C'est-à-dire, regardez bien, on nous rapporte d'abord le maasé d'Hillel. Donc ça veut dire l'histoire qui est arrivée à Hillel. Dans lequel Hillel affiche une confiance en ce qui peut lui arriver et ses proches, puis c'est sa maison, c'est pas seulement son propre corps, c'est sa maison, donc ça veut dire sa femme, ses enfants, sa maisonnée, quoi, sa famille. Donc il affiche une confiance totale, au point qu'on dit il craint pas les mauvaises nouvelles, etc. Il est confiant en Dieu, totalement, complètement. Alors, d'abord, on a à prendre la mesure de cette chose-là. Ensuite, la Gemara continue, elle nous propose une image un peu inversée. Ce Talmid, cet élève, qui lui, donc, il traverse le marché dans la crainte, il a peur. Et là-dessus, la Gemara continue, en quelque sorte, elle donne, on va dire, le coup de grâce, quoi. Une fois qu'elle a lancé l'histoire d'Hillel, elle dit, mais ça c'est pour les fauteurs. Ça, c'est pour quelqu'un qui a quelque chose à se reprocher. Ben, quelqu'un qui n'a pas de choses à se reprocher, c'est pas comme ça. Dis, qu'est-ce que tu as fait déjà dernièrement pour avoir tellement peur? Évidemment, si tu as fait n'importe quoi, alors il y a de quoi avoir peur. Mais enfin, a priori, c'est un Talmid de Rabbi Ishmael Barabi aussi, c'est pas n'importe qui, il n'a pas fait n'importe quoi. Alors il dit c'est complètement inadapté, c'est complètement déplacé. Mais quoi? Alors quoi? C'est bien marqué Ashkadam Faretamid, là tu dis. Ben, le domaine d'application d'Ashkadam Faretamid, le domaine où c'est pertinent cette attitude-là, c'est donc finalement donc, le domaine, on va dire. Alors on va laisser ouvert Divrei Torah, dans le rapport aux paroles de la Torah. Ça peut être le limud, ça peut être la hora, ça peut être l'étude, ça peut être l'enseignement ou le psakdin ou des choses comme ça, enfin des choses qui ont rapport, on va dire, avec le globalement qui se fondent ou qui tournent autour de la question du Talmud Torah, pris dans un sens très très général. D'accord? Là, dans ce contexte-là, c'est là que c'est pertinent. Voilà, en gros, donc l'énoncé. Alors vous voyez, la Gemara elle présente une solution, pour nous c'est un problème. Tout est un problème ici. Voilà. Nous, évidemment, on ne vit pas du tout comme ça. On ne vit pas du tout comme ça. C'est-à-dire, on n'est pas du tout. Si on se place dans la situation, si on veut vraiment, disons, mettre les choses bien en lumière là où on est placé, nous, face à cette Gemara-là, on est obligé de dire que, comment dire, on est très très loin d'Hillel, et que nous, en revanche, donc, chaque mauvaise nouvelle nous fait trembler. Ouais, en général, c'est comme ça. C'est-à-dire, dès qu'on s'approche un peu. Pas, non seulement il y a les mauvaises nouvelles, mais des fois ma carrément se fait des films, n'est-ce pas? Je veux dire, je rentre chez moi, ou là, qu'est-ce qui est arrivé, ou n'importe quoi. Au sens fort, hein, ça veut dire, on est capable d'inventer, mais peut-être il est arrivé quelque chose, mon Dieu, je ne sais pas, tiens, ça fait 2 jours qu'il ne m'a pas appelé, qu'est-ce qui se passe? Ça, il ne passe rien, quoi, il ne m'a pas appelé. Ah non, tout de suite, on commence, on enchaîne, on fait les trucs, on appelle en catastrophe, mon Dieu, qu'est-ce qu'il y a? Mais il n'y a rien. Ouais. Alors Kol Sheken, a fortiori, c'est déjà, on voit s'approcher des choses. Comment dire, un peu effrayante, du genre, je sais pas, pompier, ambulance, tout le monde. Et ça, c'est le problème. Ça veut dire que. On va avoir du mal. Comprenez bien, on a un problème ici, c'est que l'Agmara a fait une certaine lecture de la question de la crainte ici. Et cette lecture de la question de la crainte, elle nous place vraiment en porte-à-faux. Vous voyez, autant je peux dire d'un côté, tout à l'heure, je disais. Du point de vue existentiel, du point de vue humain, le bonheur on le trouve pas dans la crainte, on le trouve dans la confiance. Ben, c'est vrai, toutes nos relations humaines sont fondées là-dessus. Là, on ne peut pas me dire qu'on est heureux, qu'on est en train de, comment dire, en perpétuelle peur, qu'est-ce qu'il va me faire, qu'est-ce qu'il va me dire, qu'est-ce qu'il va. Ben non, pas du tout, c'est le contraire. On est malheureux. Donc c'est une certitude, du point de vue humain ça se passe comme ça. C'est la confiance qui nous rend heureux, je veux dire même au sens vraiment le plus plat du terme, on ne parle même pas d'aisance matérielle, rien du tout. Simplement, voilà, on a un sentiment de plénitude, on est en accord avec ce qu'on vit, avec ce qu'on fait. Ça, c'est dans nos rapports humains. Mais maintenant, si on se place, alors je ne dis pas sur le terrain de Dieu, vous voyez, parce qu'ici c'est intéressant, on l'a rendu très concret. C'est en général le terrain qu'on appelle celui de la Hashgacha, celui de la providence divine. Si on se place, on va dire comme ça, pas sur le terrain de relations humaines, mais notre rapport, on va dire comme ça, avec ce que nous on appelle la vie en général, le sort qui nous est fait, ouais, le destin qui nous attend, les événements qui nous guettent, etc. Quand on se place sur ce terrain-là, alors normalement dans le registre de la Torah, c'est le terrain de la Hashgacha, de la providence d'Hachem, quand on se place sur ce terrain-là, alors on a l'impression qu'on est vraiment très malheureux, quoi, au sens propre du terme. Parce qu'on est en perpétuelle crainte. Ouais. On n'a pas du tout cette confiance qu'affiche Hillel. Peut-être même qu'on pense que c'est de la chutzpah. Cette confiance. Il se peut que ce soit vrai. La chutzpah, ça veut dire que ce serait de l'arrogance. La confiance en question. Comment il peut rien m'arriver? Normalement, une telle idée pour nous, je sais pas, n'importe qui, je pense, l'analyserait comme ça en disant, mais c'est extrêmement arrogant. Tu t'imagines quoi? Ça veut dire quoi? Il peut rien t'arriver. Toi, tu es au-dessus des événements ou tu penses que, comment dire, tu es tellement tzadique, tu es tellement génial qu'il peut rien t'arriver. Alors je dis, ce texte, il nous plonge, moi, enfin, en tout cas, vous voyez, je dis, bon, formellement, il y a une certaine solution au problème posé dans le passage de Michelet. Au moins, on nous dit de quoi ça parle. On n'a pas exploré ce que ça veut dire. Vous voyez la base sur laquelle on se place ici? On a récusé toute crainte du point de vue existentiel, c'est-à-dire dans notre rapport avec l'existence, avec les événements, etc. Ça, c'est non, mais ça, c'est pour les fauteurs, ça. Ouais. Et on a, pour pouvoir placer en quelque sorte ce passouk, lui donner son orbite autour des paroles de la Torah, il faut avoir tout ce travail de la Gemara qui consiste à écarter toute crainte dans le rapport à l'existence. Alors, je dis, nous, difficile, très très difficile. Voilà, donc l'exercice est délicat. Ouais. On va prendre petit à petit. Alors, d'abord, pourquoi est-ce qu'on ne considère pas tout simplement que c'est une chutzpah, une arrogance ici, de la part d'Hillel, de pouvoir s'imaginer qu'il ne peut rien lui arriver? Ouais. C'est la première question, je pense, on va dire comme ça, du point de vue notre relation. Comprenez, il faut afficher une certitude quant à la fait, donc on fait qu'on soit des tzadikim, mais au-dessus de tout, quoi. Ça veut dire, il n'y a même pas une pécadie à me reprocher, quand même. Moshe Rabbeinu avait quand même une pécadie, peut-être même c'était pas une pécadie, en tout cas, quelque chose à lui reprocher. On sait bien que le plus grand de nos hommes, il a fauté. Alors à quoi il joue, là, il est. Au minimum, c'est la logique de la Torah, non? Pardon? Au minimum, c'est la logique de la Torah. Suppose. Dans la Torah? Pardon, la Torah. Dans la Torah, tu as une évidence. Tu fais le bien. Bah ouais. Mais par exemple, tu vois, ça fait partie de la question. C'est bizarre comme on est habité par ce genre de Gemara paradoxal que même Moshe Rabbeinu il comprend rien. Et on est habité par ça. C'est le genre de paradoxe que la Torah présente comme étant le cas suprême, on va dire, de casse-tête. D'accord, okay, donc même Moshe Rabbeinu, je ne comprends pas ce qui se passe ici. Et nous, on est habité par cette Gemara-là. Et pas du tout par toutes les choses développées par la Torah qui dit que mais, si tu fais des mitzvot et la Torah, mais moi, le monde est ouvert devant toi. Hein. Tu seras riche, beau, puissant. Qu'est-ce qu'il y a? C'est explicite dans la Torah. En revanche, si tu fautes, alors là. Oui. Oui, oui. Mais là encore. Oui, bien sûr que ça existe. Donc, mais dans les circonstances, ça existe. Il y a des circonstances qui font ça, sous-entendu. Comment on dit, Beshad Sakana, encore bien. Arrive par exemple une situation, on va dire, dangereuse. Pas forcément une situation dangereuse. Yaakov va rencontrer Esav. D'accord? Alors c'est très bien que. Même ça, c'est des mamarim explicites, que c'est l'heure des Cheshbonot. C'est l'heure où on fait les comptes. Là, on se tient, on va dire comme ça, on sait qu'on se tient un peu sur un fil. On sait qu'on est en face d'un certain danger. On sait que s'il n'y a pas une certaine, disons comme ça, Saïta d'Ishma, il y a quelque chose qui vient en notre faveur, on sait qu'on court des risques. Là, c'est compréhensible, mais ce n'est pas Adam Faret Tamil. Là, c'est quelque chose, là, je dis encore une fois, ce genre de situation, même si forcément, on n'en comprend pas forcément tous les éléments, mais on peut en avoir une intuition de ces éléments-là. On sait bien que, comment dire, si on prend des risques, si on s'expose à un risque, on a raison d'avoir peur. Avec, oui, avec Hillel. D'où Kashia à Hillel. Comment ça? Mais voilà, mais je suis d'accord. C'est pour ça que je dis, moi j'ai pris l'exemple de Moshe, parce que bon, Hillel est peut-être très très grand, génial, ce qu'on veut, mais le plus grand de nos hommes, il a fauté. Alors, comment il peut afficher une assurance pareille? Comment il peut, comment dire. Comprenez, donc, je reprends là ta question. Si on suit la logique qui a l'air d'être la logique de la Torah, la plus explicite, Il y a Sraveonesh, il y a si tu fais le bien, bah, ça ira bien, tu fais le mal, ça ira mal. Alors dit, on est obligé de dire ici de Hillel, qui c'est un chutzpan, c'est un invraisemblable. Invraisemblable. D'imaginer un homme qui n'aurait pas de faute, qui n'a rien à craindre, qui se place, on va dire, en face, on va dire, du cours des événements, comme si vraiment rien ne pouvait l'atteindre. Moi, je suis sûr, hein, rien ne peut me toucher. Ça paraît dénué de sens, complètement dénué de sens. Ça paraît plus que ça, c'est-à-dire l'enseignement de la Torah, c'est pas ça, quoi. C'est qu'il n'y a pas un homme, il n'y a pas un homme sans envergure sur terre qui n'a pas fauté. Ça veut rien dire. Alors on est obligé de se reporter différemment. Il faut encore une fois comprendre comment c'est possible d'envisager un homme dans le rapport aux événements de la vie, à ce que nous on appelle donc dans le langage, disons, des textes plus religieux, la providence de Dieu. Comment un homme il peut afficher une telle assurance? Et comme s'il était garanti. C'est quand même un curieux rapport avec ce qu'on appelle aussi donc Nachon libo batuach ba'Hashem. Son cœur est ferme, il se laisse pas ébranler, batuach ba'Hashem. Sont entendus en train de dire, voilà une situation qui ébranlerait un homme, mais il est, lui, son cœur, il ne se laisse pas ébranler. Vous voyez, c'est pas exactement la même idée. C'est pour ça que j'essaie d'aller progressivement. On n'est pas en train de dire qu'il est, il s'imagine au-dessus de tout ça. On est en train de dire, son cœur reste ferme, sont entendus, même une chmoara, il n'a pas crainte. Pourquoi? Même une mauvaise nouvelle, il ne craint pas. Pourquoi? Parce que son cœur reste ferme. Reste ferme, donc c'est son travail, c'est sa avoda. De faire que son cœur soit ferme, et batoir Bahachem, confiant en Dieu. Voilà. Vous comprenez, ça, c'est pas la même idée que de dire quelqu'un est au-dessus du Honesh, au-dessus du châtiment, au-dessus de toute. Au-dessus de la Pouranout, au-dessus de. Je ne peux pas parler forcément. Bref, bon, vous avez compris. C'est une autre idée. Ça consisterait à dire qu'il y aurait ici une certaine avoda, un certain travail à faire pour avoir ce rapport-là avec Hachem. C'est-à-dire que sans Dieu, on dirait comme ça. Peut-être qu'il serait d'accord avec nous que ce n'est absolument pas le rapport premier qu'on a avec les événements de l'existence. A priori, chaque chose qui arrive dans le monde a toujours peur que ça nous tombe dessus. Mais simplement, alors, on devrait ici faire un autre chemin et commencer à considérer que peut-être cette peur, on doit la combattre, on doit la dominer et la remplacer par autre chose. Mais pas au sens donc où on se sentirait supérieur à ça. Au sens où il y a un certain rapport à Dieu qui est en jeu ici. Ce qu'on appelle ici, que son cœur est ferme, batoir ba'Hashem. Alors je vais, comment dire, on n'a pas beaucoup de temps, je vais aller un peu vite. Alors, là, normalement, ça prend, on va dire, je ne sais pas, 10 ans de travail. Donc au bas mot quoi. Donc moi, je vais dire juste quelques petits mots dessus, pardon. Donc j'ai juste quelques petits mots sur la question, juste pour essayer de venir à notre passouf de Ashkenaz Mfaretamin. C'est que la question finalement, on va dire comme ça, c'est qu'est-ce qu'on attend exactement, qu'est-ce qu'on estime pertinent dans notre rapport avec Hachem, ou pour le dire encore autrement, franchement, et comment dire, entre nous, qu'est-ce qu'on pense de lui? Remarquez bien ce qui se passe. Nous, on développe, on va dire comme ça, un style de rapport dans lequel la peur est dominante. Peut-être qu'on a raison, parce qu'on est des fauteurs, hein. C'est tout à fait possible, et des grands fauteurs. J'essaie juste de faire un pas par rapport à Israël. Là, ça suppose qu'on voit Hachem d'abord comme quelqu'un, en quelque sorte, qui nous juge, alors au sens, qui nous juge coupable, qui nous juge... en dessous de l'exigence peut-être même minimale, quelqu'un qui aurait peur en permanence, c'est-à-dire qui aurait cette crainte à chaque fois qu'il arrive quelque chose, mon Dieu c'est pour moi et mon Dieu ceci cela. C'est pas compliqué, hein. Des fois juste on voit un mouvement dans la rue, oh là là, la panique, on s'enfuit. Ouais, il suffit des fois de n'importe quoi pour provoquer une angoisse. Si vous êtes un peu attentif à ça, vous verrez, on est extrêmement stressé. Alors la question c'est si on est aussi stressé dans notre rapport avec l'existence, c'est peut-être parce que donc on a l'impression qu'on se perçoit comme étant coupable et qu'on voit Dieu donc comme quelqu'un qui nous attend au tournant, quoi. À chaque tournant de rue, d'abord on penche la tête, il n'y a personne, je passe, on continue, regardez à droite, regardez à gauche, voilà. Et j'ai l'impression que le problème qu'on est en train de poser ici par rapport à Hillel, c'est que, en particulier par rapport au Maasé qui arrive ensuite du Talmid, c'est-à-dire ce Talmid, ce disciple qui avait peur en traversant le marché, on a l'impression que cette Gemara, elle est en train de dire que ce ne doit pas être ça, notre rapport avec Hachem. Il s'agit d'un travail, il s'agit d'une avoda qu'on doit faire soi-même. C'est pas comme ça qu'il faut le voir. Comprenez bien, je vais éviter le plus gros que c'est normal que si un homme a fauté, c'est marqué dans la Torah, qu'il lui arrive un honnêche. C'est vrai. C'est marqué quoi, quand, comment, grosso modo, la plupart des choses sont balisées. Je vous signale, on n'est pas des si grands fauteurs comme ça, en règle générale. Ok, je vois pas de rotsar dans la salle, je pense pas. D'accord, peut-être des voleurs, comme c'est là que moi elle dit, bon, il doit y avoir quelques voleurs, etc. Mais enfin, le châtiment du voleur, c'est pas terrible. En général, il doit rendre ce qu'il a volé, et point, on s'arrête là. On n'a pas dit qu'on devait le courir après, et que Dieu le punirait jusqu'à l'éternité, etc. Donc, si je fais, on va dire, le bilan, grosso modo, de nos existences, il n'y a pas, comment dire ici, des gens qui sont spécialisés, on va dire, dans les averot amoureux de la Torah. Alors, en général, on va dire comme ça, c'est averot amoureux, les graves, la faute grave qui valent, on va dire, un jugement de Dieu lapidaire, définitif et comment dire, intransigeant, etc. Ce genre de jugement il pose sur des choses qui sont bien souvent hors de notre portée. Ouais. De là la question. Tiens, alors, si c'est vrai, pourquoi on panique? Si ce que je dis est vrai, qu'on n'est pas exactement tous les onachim, on dirait les gros onachim prévus par la Torah, en général, quoi, ils sont calibrés en fonction des averot, des fautes, qui sont elles aussi des fautes conséquentes, quoi, qui ne sont pas des petites choses. C'est curieux parce que, vous voyez, parce que nous on développe une mentalité, je mets les pieds dans le plat. Mais bon, je suis venu pour ça, sinon si je ne m'amuse pas, je ne peux pas revenir. Alors, je mets les pieds dans le plat, c'est que vous savez, on dit comme ça, que plus on est religieux, donc on fait très attention aux mitzvot, et plus on a peur. Ah là, je me tire une balle dans la tête. C'est pas possible. Si t'es vraiment religieux, tu fautes pas. Et tu fais très attention. Alors comment c'est possible que quelqu'un comme ça, il développe une crainte du châtiment? C'est pas possible. Normalement, c'est pas ça que je dis encore une fois. Il y a un truc qui va pas, quoi, dans cette représentation-là. C'est comme si on avait un certain regard permanent, quoi, sur Dieu. Il nous juge coupable, il nous juge coupable, il nous juge coupable. Calme-toi, t'as dit des mille voix, tu les fais. Ah ben c'est bon, souris, t'as passé le test. Je suis très sérieux, hein. Il y a ici quelque chose qui paraît, complètement déplacé.
On voit quelqu'un qui transgresse hein, sur des ramadans, alors c'est un serpent, c'est-à-dire, mais c'est pas dans la tournée.
Non, s'il a fait bemézine. Non, on parle ici qui pourrait être sgeder. Quelqu'un. Comment dire, il dit moi ça m'intéresse pas ce histoire des rabbanan et tout, il le piétine, pas qu'il l'a fait par mégarde. Non, explicitement il dit moi ça m'intéresse pas.
Oui, mais donc on n'est pas que dans les rabbanan.
Vous, comme ça, vous piétinez un des rabbanan des khatrila. A priori, comme ça, vous venez vous piétiner un des rabbanan. Non, je vous pose la question, soyez sérieux, c'est pas très grave. Vous connaissez un des rabbanan, je sais pas, parce qu'il y en a plein dans le Shabbat. Ouais. Alors, je sais pas, il y a Issour Mouktsé, vous savez ce truc là, voilà, il faut pas le bouger, machin. Vous venez, ouais, moi je le bouge. Bon. Ça existe, je dis pas que ça existe pas. Il y a des fois, ça peut arriver qu'un homme un jour, je sais pas, il est excité, il est énervé, il manque sa cigarette, je sais pas, il peut arriver ça. Mais enfin, c'est pas notre comportement en permanence. On n'a pas c'est même pas de la légèreté, c'est comment dire une attitude comment ça, méprisante à l'égard du dérabanane. En général, c'est pas comme ça. Bon, peut-être que je me trompe, hein, je sais pas. Mais en tout cas, les gens que je connais en général, je les trouve pas tellement fauteur que ça, comprenez? Je ne dis pas qu'on n'a pas de fautes. En particulier, Benham les Khavero, on a plein de fautes. On fait beaucoup de lachonara. Alors, on peut se demander, tiens, lachonara, bah ouais, pour ça, tu n'auras pas un trait avec l'Olam Haba. D'accord? Celui qui fait de lachonara, bah voilà, il est privé de l'Olam Haba. Possibilité à chacun de s'interroger là où il en est. Mais c'est des choses qui sont ciblées. Alors, il faut parler de ça à chaque fois. Mais pourquoi, disons, avoir cette panique généralisée? Plus on est précis dans les mitzvot, et plus on est engagé par la Torah, et plus on panique. J'ai encore une fois, ça devrait être strictement le contraire. Bah, on a un brite avec Hachem, il dit pas n'importe quoi, il fait pas n'importe quoi. Il nous a dit, si vous faites les mitzvot, etc., bah voilà, je vous protège. C'est tout ce que Michelet développe, en gros, le monde n'est pas fait n'importe comment. Il est bâti sur la sagesse, sur un certain, une intelligence, sur, entre nous, ça veut dire Hachem, il y a un brite. Bah oui, si tu rentres dans ce brite, si tu suis les choses, voilà, tu devrais être, au contraire, vivre une relation de confiance. Je dis ça donc très rapidement, d'accord, parce que qu'on n'a pas beaucoup de temps. À mon avis, c'est ça un peu l'idée qu'on développe dans Hillel, c'est-à-dire, je sais bien qu'on tous, on est paniqué, disons, par les événements, c'est une question qu'on devrait s'adresser à soi-même. Pourquoi, a priori, notre rapport avec les événements de la vie, et donc avec ce qui s'appelle la Hashgacha, la providence d'Hachem, pourquoi ce rapport-là est-il aussi un rapport de panique? De panique qui se déclenche très rapidement. Quelquefois même qu'on invente nous-mêmes. Pourquoi est-ce que c'est ça? Question. Je dis en tout cas, je fais remarquer que moi, ce que je veux voir dans Hillel, ici dans la Gemara, c'est que quelqu'un qui est, donc comme Hillel, c'est quand même ce qu'on appelle un tzaddik, c'est-à-dire un Talmid Chacham, donc quelqu'un qui est engagé dans la Torah, qui a ce chemin-là, alors lui, sa avoda, son travail qu'il fait sur lui-même, c'est précisément de se garder de ça, d'avoir un rapport de confiance avec Hachem. Pour donner un exemple, vous voyez, par exemple, je peux imaginer, on va dire comme ça, disons, si on a un rapport de confiance avec quelqu'un, ça signifie, vous savez, on n'est jamais parfait, même dans nos rapports humains, prenez la mesure des rapports humains, on n'est jamais parfait dans nos rapports humains. Il y a toujours, plus qu'imparfait, mais il y a toujours, comment dire, on serait surpris que quelqu'un à qui, par exemple, je ne sais pas, par inadvertance, ou peut-être par colère, ou ceci, cela, on a fait quelque chose qui n'était pas très bien à son égard, on serait quand même surpris s'il nous rendrait 10 fois la monnaie de sa pièce. Vous comprenez ce que je veux dire? On dirait non, il y a quelque chose qui ne va pas ici. C'est vrai que moi j'ai mal agi, c'est vrai, alors je reconnais, etc. Mais quoi, 10 fois, j'ai eu 10 fois le prix de ce que j'ai fait? Non, ça nous paraît injuste. Ouais? Eh bien alors, je dis franchement, par rapport à Hachem, c'est la même chose. Alors, je veux bien qu'on ait des avérotes, vous comprenez? Du genre, ça veut dire, je fais pas ceci, je fais pas cela, je vis pas très bien cette chose-là, j'ai un côté, on va dire, un peu léger dans certaines choses, je suis un peu... Bon, bref, entre nous, soit dit, je suis un homme, ok, comme il y a eu tant depuis tant de générations, et je fais pas tout ce que je devrais faire. Chacun à son niveau, hein, je dis pas, j'ai une question. Mais bon, normalement, le honnêche, il est proportionné, quoi. Il faut que ce soit grave pour que le honnêche soit grave. Alors, si je reste ce rapport de confiance avec Hachem, je précise confiance, ben, que Hachem il est tzaddik voyachar, ou il va pas me renvoyer une montagne sur la tête parce que moi j'ai fait une peccadille. De là, je peux vous dire, donc, et si effectivement j'ai fait des choses graves, alors lieu de craindre, ah oui, d'accord. Mais ça, vous comprenez, c'est pas un rapport de panique, c'est un rapport de raison. C'est un rapport raisonné de chokhma. Si j'ai fait, c'est clair que si j'ai fait à quelqu'un quelque chose de terrible pour lui, c'est sûr, je dois attendre une riposte. Et si j'ai fait quelque chose qui me paraît grave, même à mes propres yeux, bon sang, je m'imagine bien que celui qui me juge, il jugera ça grave aussi. Mais ça, c'est pas un rapport de panique, c'est un rapport de raison, c'est un rapport de chokhma. Entre temps, on est capable quand même de... Si on est capable de mesurer en quelque sorte, on a quand même toute la Torah pour ça, pour mesurer un petit peu ce que la Torah attend de nous, là où on est, et même si on est toujours loin de satisfaire complètement l'exigence, mais enfin, c'est comment dire... on n'est pas ici. C'est pas parce qu'on est, disons, pas à la hauteur de l'exigence que pour autant nos efforts ne comptent pas, que pour autant le bride qu'on a fait ne compte pas. Il y a une certaine réalité de ce qu'on fait et de ce qu'on ne fait pas, à nous de prendre la mesure. En tout cas, j'imagine donc que toute attitude d'Hillel, elle est fondée là-dessus. Pas qu'il n'a pas fait de faute, mais en tout cas, à mon avis, par exemple, il rentre chez lui, etc., il voit, bon, c'est l'incendie, c'est le machin, etc. Il dit, mais non, Hachem il me fera pas ça. Pourquoi il me fera pas ça? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ben, dans ma avoda vis-à-vis de lui, j'ai pas cette ardoise avec lui. S'il est tzaddik, il fait pas ça. Alors, allez maintenant vous dire ça, d'accord? Moi, je vous l'ouvre un truc. Hachem est tzaddik, c'est ce qui est marqué dans la Torah. Tzaddik v'yacharou. Alors, ben non, il fait pas ça. Il fait pas des trucs pareils. Ouais. Mais avant de dire ça, hein, je m'avance avec beaucoup d'assurance. Voilà, mais c'est pour ça que je le dis en deux mots. Est-ce qu'on est à la hauteur de ça? Moi, on ne l'avait pas du tout. Maintenant, bon, je suis à nous, ça c'est marqué dans la Gemara. Et ça me semble juste sur le fond. Maintenant, est-ce que du point de vue existentiel, je peux soutenir ça? Mais remarquez bien ce que ça veut dire. Il faut moins le remarquer. Je ne suis pas convaincu qu'il est sadique, Hachem. Parce qu'un sadique, il n'est pas comme ça. Vous savez, les textes de la Gemara qui disent aussi comment Hachem est Rahman, et comment il est Morel, et comment il est patient, malchapo, et comment. Mais moi, dans mon existence, j'ai le sentiment que je ne vis pas ça, quoi. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un de très irascible en face de moi, et mon Dieu, j'ai mal fait la bracha, qu'est-ce qui va m'arriver? Et c'est une grande question. C'est vraiment une très grande question. On peut le dire comme ça, légèrement, mais pourquoi je vis ça, moi? Bon, voilà, je pose la question, c'est ce qui est dans la Gemara. Maintenant, notre sujet, c'est le pasouk qui vient juste après, Ashradam Faret Tamil. Une fois que la Gemara évacue la crainte de l'existence, sous-entendu, elle n'évacue pas existentiellement, puisque c'est ça qu'on vit. Mais elle dit, c'est pas légitime, il y a quelque chose ici qui ne va pas. Dans ce rapport qu'on a avec Hachem, ça ne va pas. Alors on peut dire aussi, peut-être que ça ira jamais, parce qu'on n'est pas à la hauteur. Bon, il y a quand même Tzadikim pour l'être. Mais là, je dis en tout cas, la Gemara, elle a fait ce pshat, elle a fait cette lecture ici, que la crainte, et en particulier la crainte en permanence, ça ne peut pas être une crainte dans l'existence, ça peut être une crainte relative aux événements d'existence, aux choses de la vie. Et qu'au contraire, dans les choses de la vie, ce qu'il faut travailler, ce qu'il faut cultiver, là où la chose qu'il faut, en quelque sorte, le lien qu'il faut faire entre nous et Hachem, nous et ces choses-là, c'est un lien de confiance. C'est ça qu'il faut être capable de retrouver, de trouver, de fonder, etc. Du coup, maintenant, vient la question, mais nous, c'est quand même bien marqué, Ashrei Adam Mefared Tamid. Voilà. Donc il y a bien une dimension, pas comment la dire comme ça, dans la vie humaine, il y a bien une certaine dimension dans la vie humaine dans laquelle on dit non, il faut cultiver la peur. Et si on va jusqu'au bout du mot Ashrei, et même ce serait donc un bonheur, s'il est vrai qu'on peut aller jusque-là. Ce serait un bonheur de cultiver la peur. Il y a un domaine dans lequel ce serait vrai. Donc la cultiver, ça veut dire, c'est ce que j'appelle donc cette constance. Dans la peur. C'est là-dessus que la Torah, donc la Gemara dit, Bedivet Torah active. Ça, c'est à propos des paroles de la Torah. Voilà, la question, c'est comment. C'est vrai que dans les paroles de la Torah, bon, on savait, il y a une fila avant, là, quand on rentre au Beth Amidrash, quand on sort au Beth Amidrash, comment dire, pour nous garder du Mirchol, etc. Ça veut dire, on sait bien que quand on parle de Torah, on étudie, etc. Des fois, il y a des disputes, des vikuchim, il y a des choses dans lesquelles on sait que des fois, des paroles qui peuvent sortir qui sont blessantes, des fois, on peut même fausser le din, simplement parce que, je ne sais pas, celui qui soutient l'opinion contraire, on ne l'aime pas, alors on va lui rentrer dedans, alors. D'accord, on sait très bien que des fois, les débats, ils tournent. Il tourne aux querelles humaines sordides, enfin, c'est. D'accord ? C'est vrai, je veux dire, c'est vrai, mais moi, je ne sais pas si ça justifie Ashrei Adam Faretami pour des livrets Torah. Donc, c'est vrai que on doit, quand on aborde les livrets Torah, c'est comme si on disait, bon, quand même, c'est pas une discussion ordinaire, c'est une discussion, quand on parle de livrets Torah, il y a ici quelque chose qui est, comment dire, qui exige de nous. Pas seulement avec notre intelligence, etc., ou notre cœur, etc., mais une vraie shmira, quelque chose qui exige notre garde, qu'on fasse attention à ne pas tomber. En plus, en général, c'est grave quand on tombe. Soit, par exemple, je ne sais pas, on dit une chose fausse, par exemple, et qui fait que, je ne sais pas, pendant ensuite, peut-être même des années, des fois, on fera des bêtises, et quand on apercevra, ça sera dur à supporter. Ou alors, on dit des choses qui sont blessantes pour les autres, complètement hors de portée. Ou alors, tout ce qui peut se produire lorsqu'on a affaire à des choses, à des paroles, qui sont des paroles de poids, des paroles qui ont des conséquences, qui rentrent dans la vie et qui touchent le cœur des hommes, etc. Donc on doit avoir une shmira, on va une garde par rapport à ça. Faire attention. Ok, c'est juste. C'est une des possibilités. Mais seulement le problème, je ne sais pas si ça justifie encore une fois une expression aussi forte. Mefached tamid. Shmira, shmor, ça s'appelle en hébreu. D'accord ? J'utilise le mot hébreu. Avoir un, comment dire, une, je ne sais pas en français, un contrôle sur soi-même, exercer une certaine discipline. Sur ce qu'on dit, se forcer par exemple à peser ses mots. Moi, ça s'appelle en français une discipline, en hébreu, ça s'appelle une shmira. Pas une ira à proprement parler, et pas encore moins une ira tamid. La question un peu, c'est comment justifier, encore une fois, c'est tous les problèmes qui sont liés à ce pasouk, c'est qu'on peut toujours faire, on va dire, des pshat, des lectures. À 10% du pass, ou à 20%, à 50%, comment on le lit à 100%? C'est ça la question. Comment on peut lire à 100% que c'est marqué « Heureux l'homme qui toujours craint » Et au sens où, alors, si on est capable même de lui faire dire que ça suffit vraiment de bonheur. Ouais, comment on peut faire une lecture à 100% de ce passage-là? Et en plus, on nous dit, voilà, mais ça, ça parle des livrets Torah. Alors là aussi, moi, j'ai essayé de faire une ouverture quoi, par rapport à cette question-là. À partir disons, de la Gemara, la structure de la Gemara consiste à dire, donc vous voyez, à opposer, on va dire comme ça, le domaine de l'existence au domaine de divrei Torah. Notre rapport avec les événements de l'existence, avec les faits de la vie, et ça, on doit cultiver au contraire le bita, une confiance. Et d'un autre côté, dans les paroles de Torah, on doit plutôt cultiver une crainte permanente. Voilà. Alors, je vais le prendre, comment dire, là où on se trouve, nous, en général, c'est-à-dire qu'on fait systématiquement le contraire. Ouais. La même raison qu'en général, disons, dans les questions de... dans les questions d'existence. Enfin, en tout cas, je remarque, tout comme dans les questions d'existence, les questions existentielles, notre rapport à la vie, on est peureux. Ouais, on est peureux. On est toujours apeuré par la moindre rumeur. J'ai l'impression, dans les livrets Torah, j'en suis la preuve vivante, hein, dans les livrets Torah, au contraire, alors là, on se sent d'une assurance plus commune. Ouais. Alors je vais prendre la chose de cette manière-là, c'est-à-dire la... Évidemment, je connais pas, d'ailleurs même ici, si vous avez, c'est facile, ça veut dire au sens, jeter une parole de Torah entre des gens, et vous allez voir, chacun s'en empare. Chacun s'en empare. Non, c'est ça. Mais non, c'est ça. Mais si, c'est ça. Mais alors non. Mais voilà. Et chacun démonstration, et chacun... c'est pas ce qu'on appelle... c'est vraiment pas la panique, quoi. C'est une assurance totale que je sais parfaitement de quoi on parle, et je peux m'avancer là-dedans, m'emparer de la chose, et puis... comme je fais devant vous, moi, je suis pas de... Voilà. On a l'impression que... La Torah, c'est un marché ouvert, quoi. C'est lui le marché, quoi. Tu viens, tu te sers, même pas de caisse à la fin pour payer l'addition. Donc là, j'ai l'impression que c'est un peu ça, je crois, que cette Gemara... Enfin, on va dire comme ça. Du point de vue, si je veux être honnête avec moi-même, je suis obligé de m'apercevoir que cette Gemara prend tout à l'inverse pour moi. Et donc, de me dire que il y a quelque chose ici, il se peut que ce soit son enseignement. Encore une fois, c'est toujours difficile de juger ce que la Gemara veut vraiment enseigner. Par rapport à moi, en tout cas, là où je suis placé, j'ai l'impression que vraiment, elle me prend un rebrousse-poil et qu'elle essaie de me dire quelque chose qui ne cadre pas du tout avec la manière habituelle que j'ai de prendre les choses. Et alors là, par rapport au livret Torah, donc, je serais obligé de me demander, mais je m'appuie encore une fois sur cette structure-là, je serais obligé de me demander, mais c'est vrai au fond. Mais bon, ça, c'est un exercice que chacun doit faire. Moi, je vais bien le faire, disons, pour moi, quoi, mais chacun doit le faire. J'ai l'impression, ça concerne aussi les femmes, hein, j'ai remarqué les femmes aussi, c'est pareil. C'est pareil, c'est tout le monde se semble, comment dire, j'ai appris un jour une chose, on m'a dit par exemple telle chose, ah voilà, maintenant ça y est, c'est cette chose-là. Ah ben, vous savez, la Torah, c'est plein d'avis et plein d'opinions. Alors, ouais, bah, par exemple, ma femme, elle a appris au séminaire, voilà, c'est comme ça le dîme. Je dis, non, mais ça c'est... Alors, non, mais c'est là, voilà, tu me brouilles pas la tête, hein. Cette chose-là, ça, c'est la Torah. Je sais. Je dis, quoi, tu sais? Ben, il me l'a dit. Ah bon, mais il te l'a dit. C'est pour tout le monde comme ça. On a l'impression, ouais, c'est très très étrange parce qu'on a l'impression que chacun a un rapport presque de propriété quoi, avec les choses à Torah, qu'il a pu l'apprendre, qu'il a pu réfléchir, et tout ça. Mais comme si donc avec une sorte d'aisance, on va dire, qui va de soi, je m'en empare, c'est à moi, c'est ça que ça veut dire. Et je dis à tas de gens avec qui en permanence on se dispute, c'est ça qui est marqué, non c'est pas ça, homme, femme ou enfant. Avec mes enfants, je me dispute parce que le prof, il a dit telle et telle chose, le moré, quoi, il a dit telle et telle chose, hein, du passouf. Je dis, ouais, tu sais, comme ça. Ah ben non, pas du tout, il me fait une grande démonstration. Que... Ah ben non. Alors j'ai l'impression qu'on a un rapport complètement. Comme si. D'un côté, on peut juger ça extrêmement bien, parce qu'on peut juger, mais au contraire, vous voyez bien que comment la Torah, elle s'accroche à nous, comment on l'accroche avec la Torah, etc. C'est vrai aussi, on peut pas le nier. Mais la difficulté, quand même, si on y songe un petit peu. C'est quand même, on s'avance beaucoup. C'est curieux. On s'avance beaucoup.
C'est une peur de dire le contraire.
Pardon ?
C'est une peur de dire le contraire.
C'est-à-dire ?
L'incertitude. Quand une personne dit, j'ai appris, je suis comme ça, elle n'a pas à dire, je suis sûr de ça. Et puisque moi j'ai appris comme ça, aller regarder autre chose, ce que je vais faire avec ce que j'ai là.
Ah ben, c'est comme les êtres humains, voilà. Un tel il dit ça, un autre il dit ça. Maintenant, voilà, faites là entre les deux une pchara, ou dites-moi quelle est la entre les deux et comment. Pourquoi de la peur? J'ai pas compris. C'est possible. Mais alors à ce moment-là, on peut dire ça aussi sur nous. Quand on s'avance fort de son opinion, par exemple, il y a un débat, quelqu'un ne dit pas comme moi, alors moi je me bute, mais pas du tout, et avec la plus grande assurance, je lui démontre qu'il a complètement tort, ça peut être aussi la peur de me remettre en question. Oh, oui, absolument. Ça, je suis d'accord. Ça veut dire que ça se lie à deux faces. Mais la question, en tout cas, c'est de savoir, mais parce que le problème est le suivant, c'est qu'on ne parle pas de n'importe quoi quand même, on parle des vrais Torah. Je veux bien que dans une conversation, je sais pas, sur le football, voilà, il y a des parties, lui c'est les bleus, l'autre c'est les verts, bon, chacun son truc, quoi, importe. Mais on parle quand même des choses qui sont normalement des choses sérieuses, des choses qui portent à conséquence. Normalement, je veux dire, enfin, pour le dire méchamment, comme ça, ça se passe un peu brutal, quoi, c'est la parole de Dieu dont on parle, là. Ouais. Ou alors des grands talmidei chachamim. C'est pas notre parole, a priori. C'est pas notre niveau de conversation, en général, hein, les conversations de la Gemara. Donc, c'est quand même, il y a une certaine distance. Et très curieusement, parce que c'est très caractéristique, on va dire, en général, quoi, de l'atmosphère d'Ivrei Torah. C'est aussi le côté, on va dire, sympathique d'Ivrei Torah. C'est qu'aussitôt, donc, on s'accroche avec elle, et on discute, et on dialogue, et on... Il faut quand même un certain... C'est curieux qu'il fasse un certain travail sur soi pour, par exemple, donc, se garder d'avoir une opinion, disons, trop rapidement. Si je suis modeste, quoi. Ouais. Et que ça s'apprend au fur et à mesure des années. En tout cas, je fais remarquer que si on y réfléchit un peu, cette facilité avec laquelle on s'approprie la Torah est hallucinante. Et je vous rajouterai quelque chose parce que j'ai pas de preuve dans la Gemara pour le dire, mais j'ai l'impression que ça se passe comme ça. Ça veut dire plus on est chacham et plus on va dire comme ça, on sent un malaise là-dedans. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça veut dire là, c'est comme si je disais, c'est presque notre démarche première. D'accord? Je ne connais pas le nombre, c'est-à-dire le nombre incalculable de gens qui ont des thèses sur la Torah, c'est inouï. D'accord? Et quelquefois même, ils n'ont jamais ouvert un livre, c'est pas grave, ils ont une thèse sur le judaïsme. Quoi. C'est pas... Je suis juif, j'ai une thèse sur le judaïsme, non? C'est comme ça chez vous? À chaque fois, c'est la même chose. Je suis juif, j'ai une thèse sur le judaïsme. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu sais? Qu'est-ce que tu as appris? Rien. Je suis juif, j'ai le droit de parler quand même, non? Alors moi, je dis, en tant que juif, je vous dis, voilà, le judaïsme, c'est ça. C'est comment dire la. Ce genre de situation, ça fait en gros que, comment dire, n'importe qui dit donc n'importe quoi. C'est un fait avéré de notre époque. Hein. C'est ce qui fait qu'il n'y a pas de Talmid Chacham. Ça veut dire, même s'il y a Talmid Chacham, ça ne peut pas se faire entendre. C'est démocratique, hein, l'époque moderne. Donc, tu es citoyen français, tu votes, tu es juif, tu parles de la Torah. C'est bon. Alors, du coup, donc, il n'y a pas. Ça veut dire, comme il n'existe pas le décalage, on va dire, entre. Celui qui sait, celui qui ne sait pas, que tout le monde est pris sur le même angle, c'est-à-dire au pied d'égalité, alors là, une parole de Chacham ne peut pas se faire entendre. C'est pas possible. Ce sera qu'une opinion pour les autres. En tout cas, je remarque, regardez bien, que donc, j'ai l'impression que c'est ça que ce texte va nous dire, c'est que. Comment dire. C'est comme je disais que ce malaise, on va dire comme ça, pour l'instant, j'ai appelé un malaise. Le malaise dans le rapport, dans l'évidence, ou on va dire comme ça, ou dans l'accaparement. Qu'on a sur les paroles de la Torah, j'ai l'impression que ce que l'agma est en train de dire, c'est que ça c'est une chose à travailler. Apprendre, comment dire, à avoir quand même un certain décalage vis-à-vis de la Torah. Apprendre à on va dire, j'ai peur d'employer des mots parce qu'après ils sont un peu lourds, quoi. Disons, on est obligé de parler, on parle vite. Alors, mais disons, apprendre à conserver une certaine distance et une. C'était une humilité par rapport aux paroles de la Torah ou aux paroles de Talmid Chacham, etc. Ça demande a priori un travail. C'est curieux parce que vous savez, tout le monde vous dira le contraire, mais disons, dans le Noeg, l'habitude des gens, la manière dont les gens fonctionnent, on s'aperçoit que c'est pas si simple que ça. Moi, j'ai vu des, comment dire, des. C'est l'époque qui veut ça aussi, disons, des Talmidim qui ferment leur bouche au Rav. Même si c'est un Talmid Chacham, même s'il a 70 ans, etc. Parce que lui, c'est pas comme ça qu'on lui a appris à l'école. C'est curieux, mais c'est comme ça. Et il se peut que, comment dire, il n'y a rien ici de tellement spécial. Quelque chose ici à réfléchir plutôt sur la nature humaine, la manière dont on fonctionne, pour se demander finalement. Moi, il m'a fallu quand même un certain âge, mais un jour, je me suis demandé quand même, tiens, sérieusement, d'où je sais ce que je sais, et qu'est-ce que je prétends dire, et pourquoi je parle. Ouais. Et Alors, quand on se pose cette question-là, si on la pose vraiment sérieusement, alors là, c'est une situation très particulière. Parce que il y a deux solutions. Ou on se tait. Mais alors, toute la avoda, tout le hamal des divrei Torah, il est perdu. On dit à Adam la mal yulad, la mal yulad et ou yulad la mal bapé. Un homme, il est né pour le travail. On va dire comme ça, le hamal, c'est plus que le travail. Comment dire, l'effort, la peine, l'effort. Et quel effort? L'effort de la bouche. L'effort de parler la Torah. Alors, si on prend ce décalage, on va dire, comme une valeur absolue, c'est la parole de Dieu. Mais moi, qu'est-ce que je suis? Je suis un homme, je suis rien du tout. Moi, qu'est-ce que je vais faire? C'est la parole d'un grand ami Traham. Mais moi, qui suis-je, moi? Si on la prend de manière absolue, on se tait. On n'a plus rien à dire. On a peut-être une oreille pour entendre, mais pas une bouche pour parler. Et à ce moment-là, donc, tout le hamal du Talmud Torah, donc toute la réalité de ce qui s'appelle étudier la Torah, réfléchir, comment dire, disséquer les choses, il est perdu, il n'y a rien à faire. Or, quoi qu'on en dise, il y a une mitzvah et ça fait partie, c'est le cœur même de la Torah. Alors, si ce n'est pas ça, alors il faut trouver un certain... Ça veut dire être capable à la fois, on va dire, de conserver la hauteur, quoi, des divrei Torah, la grandeur des choses qui sont en jeu... Et savoir trouver sa place et quand même continuer à parler. Alors, moi je suppose, en fonction de la Gemara, c'est ça dont il s'agit. C'est-à-dire, quand on dit Ashkadam Mefaret Tamid, le divrei Torah active, là il y a un rapport, c'est-à-dire, là il y a une exigence de crainte permanente. C'est-à-dire, je parle, si quand je parle, je ne suis pas, on va dire comme ça, angoissé. En permanence, parce que je suis en train de dire, je suis en train de parler de Torah, je suis en train de parler de choses qui sont des choses fondamentales, je suis en train de m'emparer de certains dibourim, etc., certaines gmarot, etc., je suis en train de faire ça. Si je ne suis pas angoissé par ça au moment où je le dis, alors j'ai raté le rapport avec les livres et Torah. C'est de ça donc la Gemara elle est en train de parler ici. Les livres et Torah actifs, sont entendus. Que le rapport vrai, en tout cas qui doit être cultivé en permanence par un être humain dans son rapport avec la Torah, c'est ce rapport-là qui, comment dire, étant donné ce qu'on nous demande, on nous demande de parler, de donner avec nos mots, avec notre bouche, avec notre compréhension, de parler de la parole d'Hachem, de la parole des Talmidei Chachamim, etc. On nous demande de parler de ça, c'est ça l'enjeu. Alors je dis, a priori, la Gemara serait marqué donc que cet enjeu-là, il faut le vivre dans la crainte permanente. La crainte permanente, sous-entendu pas seulement la crainte de se tromper, ce rappel permanent que, attention, moi je suis en train à chaque fois ici de m'emparer de quelque chose. Et je ne suis pas à la hauteur. Hein. Je veux dire simplement qu'on est confronté à ce paradoxe dans la Torah qu'on doit soutenir un discours, on doit parler, on le doit, c'est une obligation. On doit parler cette Torah, dire des mots avec notre compréhension, c'est les paroles de la Torah. Et pourtant, on est censé donc parler de choses qui nous dépassent complètement. Normalement, c'est une situation, j'ai déjà entendu quelqu'un qui parle de choses qui dépasse complètement, son discours est complètement abruti. Hein. En général, ça se passe comme ça. Et bien, il faut bien se garder cette idée en tête. Quand on parle de choses qui nous dépassent, si vous avez déjà fait l'expérience un jour, par exemple, vous entendez quelqu'un qui parle de choses qu'il ne connaît absolument pas ou alors qui sont trop loin de sa compréhension, et vous comprenez, vous avez le sentiment vraiment qu'il est ridicule celui-là. Ridicule, ben, il parle de choses, on dirait, il est sérieux avec aplomb. Et bien, quand on parle des vrais Torah, il faut s'imaginer comme ça. Il ne faut pas avoir peur de s'imaginer comme ça, c'est-à-dire avec ce même côté où on est complètement où ce qu'on dit, on va dire comme ça, ne peut être que complètement hors de propos sur le fond. Mais pourtant, on va le dire et on fera une quantité de choses d'après ça. Voilà, j'essaie de vous dire très rapidement, juste encore un mot, ça s'appelle le bonheur? Eh bien, je dis franchement, moi je crois que oui, mais alors, il faudrait, je crois que oui, mais c'est vraiment le problème de savoir de quoi on parle, sur la question du bonheur. Disons, parce que le mot bonheur en français, il est un peu, c'est comme on dirait en français, mazal tov, hein, bonheur, ça veut dire au sens propre, quoi, le bon... Heure, quoi, c'est le. Comment on dit en France? Comment on dit ça en français? Les expressions du même genre. Ouais, la bonheur, c'est-à-dire, c'est l'occasion, le mazal, c'est l'occasion, quoi. La bonheur, c'est, ou le bonheur, c'est la bonne occasion, c'est ce qui se passe, donc, quand on est quand on rencontre quelque chose qui correspond à ce qu'on aspire, ce qu'on cherche, etc. C'est presque Mazal Tov, quoi, en hébreu, le même genre d'idée, quoi, de prendre la bonne conjonction astrale. Bon, bref. En tout cas, bon, mais aujourd'hui, la signification est plus liée à ça. Est-ce que donc, comment dire, on est heureux? Est-ce qu'on est heureux si on s'aperçoit qu'on parle de choses qui nous dépassent et qu'on a cette crainte sans arrêt d'être à côté, de dire que des bêtises? Personne ne vous dira ça, hein. Vous n'avez pas remarqué? Personne ne vous dira ça. Personne ne vous dira ça. Vous avez déjà vu quelqu'un comme ça qui va vous dire, vous savez ce que je dis, c'est peut-être complètement à côté de la plaque, vraiment totalement. Pourtant, soyons très sérieux, si on est honnête, franchement, c'est l'évidence. Si on est honnête, vous savez, on va dans la Gemara par exemple, quelqu'un, on dit par exemple, je ne me rappelle plus la phrase exacte, mais qu'un des Amoraïm, etc., il a trouvé une certaine idée, on dit, ah ben ça justement, c'était ce que disait Rabbi Akiva. Oh, la Gemara, elle appelle ça un Nes. C'est un miracle. Il y a une névoie ici qui tombait par hasard. Parce que l'idée qu'un Mora, pourtant, un Mora, c'est pas n'importe quoi. Il arrive à trouver l'idée de Rabbi Akiva, à former un truc comme ça qu'il a, et sans avoir lu, etc. Il a trouvé les mots pour le dire exactement comme Rabbi Akiva. Et on va dire, waouh, stupéfiant. Alors nous, on vient et ouais, c'est marqué Rabbi Akiva, il dit, et blanc, je fais un pchat, je vous dis exactement ce qui est marqué. Moi, je sais trop, c'est pas là, j'ai pas de... Mais alors, la question, donc, c'est toujours... Faut même pas être dupe, quoi. Alors, si on est, par rapport à ça, on relève le passou. Ashkadam Fakhetavin ou Makshelibo Yipol Bera. Makshelibo, donc, celui qui en Dieu son cœur, c'est quelqu'un, donc, finalement, qui serait complètement dupe, ici, de ce qui se passe. Makshelibo, il s'endurcit, en fond, ça veut dire, en d'autres termes, vraiment, oui, il s'accapare les paroles de la Torah. Et lui, à ce moment-là, on dirait, oui, Yipol Bera, lui... Il lui arrivera malheur. Lui, ça se finira mal. D'accord ? Comme si son destin il est scellé maintenant, ça se finira mal, cette histoire-là. Ouais. Il me semble, en tout cas, par rapport à ça, qu'il y a une vraie dimension qu'on peut qualifier ici de dire d'heureuse. Non, même si ça paraît paradoxal, comment dire, de s'apercevoir de sa petitesse, etc. C'est qu'à chaque fois qu'on a, on va dire comme ça, une vision plus juste de soi-même, de là où on se trouve. Alors, on évite la chose la pire qui puisse nous arriver, en manière générale, c'est ce qu'on appelle en général la prétention, l'arrogance, etc. Quand on dit de quelqu'un, Makshelibo Yipol Bera ici, ça veut dire que quelqu'un est à ce point, en quelque sorte, convaincu dans cette confusion entre sa parole et la parole de la Torah, et tellement ancré dans cette confusion-là, c'est, imaginez-vous, de là le rapport qu'il a aux autres. Imaginez-vous de là, y compris ses proches. Imaginez-vous même, on va dire comme ça, on va dire comme ça presque, l'incapacité qu'il se trouve à apprendre, parce qu'il a un mal fou à se remettre en question, à la moindre critique. Enfin, on a attaqué Dieu, puisque lui, quand il parle, il dit la Torah. Donc imaginons que la situation, à quel point elle peut être bloquée et bloquante dans une vie humaine. C'est vrai que là encore une fois, le paradoxe veut que nous y fassions. Les hommes se rendent malheureux tout seuls. Le paradoxe veut que la plupart des hommes, effectivement, ce soit leur sort. C'est ce qu'ils ont voulu. Là, ce qu'on apprend ici, c'est qu'en tout cas, si je suis capable d'avoir un certain recul par rapport à ça, alors j'ai cette disponibilité aussi. Vous voyez, plus je, on va dire comme ça, j'évite de confondre ma pensée, ma réflexion, ma conception avec les paroles de la Torah comme telles, plus il y a de l'espace pour que j'entende autre chose. Et je suis capable d'apprendre, de découvrir. J'ai un monde qui s'ouvre devant moi. Plus cet écart, il est grand. Et plus, chaque parole de la Torah, pour moi, c'est riche de centaines d'enseignements. En revanche, plus je me colle au Devrei Torah, et plus finalement, au bout de ma vie, je me concentre de tourner en rond dans mes Devrei Torah. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Si la Torah se confond avec ce que je dis, vous savez, donc est-ce qu'on fait aussi avec mon niveau, est-ce qu'on fait aussi avec mon appréhension des choses, etc. Alors, il y a une dimension ici, même si on va dire que, c'est pour ça que moi j'avais dit que le titre de la conférence c'est l'angoisse, je sais pas quoi, c'est vrai. C'est angoissant de se regarder en permanence en se disant tout ce que je dis c'est hors de propos et à devoir ce rapport, cette crainte comme ça toujours en arrêt de dire n'importe quoi parce qu'en fait en permanence on est toujours en train de on est toujours en train de s'approprier quelque chose auquel on n'est pas à la hauteur. Mais d'un autre côté, donc c'est une vraie angoisse. Mais d'un autre côté, c'est la seule possibilité de conserver un rapport d'ouverture avec, avec les paroles de la Torah. D'ouverture, donc d'enrichissement. Et donc, c'est pas déplacé à ce moment-là de dire oui, Ashrei au sens que c'est un bonheur. Le bonheur, quoi, d'une perpétuelle découverte, d'une. Comment dire, comme on peut appeler aussi le. Même si c'est paradoxal, le bonheur de la remise en cause. Être remis en cause, c'est jamais sympathique. Mais d'un autre côté, si on l'accepte et qu'on joue le jeu, alors on découvre quantité de choses nouvelles. Des choses que nous-mêmes, on n'aurait pas été capable de produire, des choses que nous-mêmes, on n'aurait pas été capable de voir ou de comprendre. Alors c'est ce paradoxe-là, à mon avis, qui est ici mis en avant. C'est comment dire, c'est pertinent, même si c'est paradoxal, c'est pertinent de dire que qu'il y a un bonheur là-dedans, au sens où on est heureux de ça. Ça veut dire qu'il y a un résultat heureux pour nous de cette situation-là. Voilà, on m'avait dit de laisser le temps de. Je sais pas si j'en ai assez beaucoup de temps. Voilà, donc vous avez le droit de me remettre en cause complètement, de me critiquer, voilà, c'est n'importe quoi ce que j'ai dit.
Juste un mois en arrière, ouais. Dans le dialogue entre le rabbin et David au marché de la Torah, là, on a l'impression que le rabbin veut qu'il remplace son angoisse par cette angoisse. Non, on a l'impression qu'il discute sur l'angoisse. D'ailleurs, si tu es angoissé de ça, tu ne veux pas être angoissé de ça. Et d'un autre côté, si il lui demande d'être angoissé par autre chose pour remplacer son angoisse.
Ouais. Tu veux dire, c'est un palliatif? Moi, j'ai pas l'impression. Pour ça, moi, j'ai lu dans la continuité avec du Maasé d'Hillel. De la caisse commande avant, c'est ici il faut du bitachon. C'est ça que moi j'ai pensé comme ça. Pas en sens. Tu veux dire que c'est un palliatif, c'est une sorte de dérivatif. Si déjà t'es angoissé, fous-le là-dedans.
Non, il faut pas. On peut pas être angoissé en même temps de ça et de ça. Si t'es angoissé de traverser le marché, c'est parce que t'es pas angoissé de tout le droit, mais il faut au contraire. Ton basouk, il s'adresse que dans ce cas-là.
Peut-être, mais quel raisonnement? Quel raisonnement pour dire ça? Pourquoi hein? Non, s'il y a un raisonnement comme ça, pourquoi pas? Mais quel raisonnement de dire si t'es angoissé par ça, t'es angoissé par le Talmud Torah? Quelqu'un peut être angoissé en permanence. Partout.
Il dit l'angoisse, on peut pas y échapper. C'est ça qu'il veut dire. C'est dans l'impression, on ne peut pas y échapper. Mais si tu peux y échapper, mais des durées de Torah.
Si tu mets l'angoisse dans les durées de Torah, alors tu échappes à l'angoisse de l'existence. C'est Netsa qui lui dirait alors. C'est un conseil. Mais pourquoi, si il met besoin d'un. Comment comprendre ça? Oui, mais pourquoi? Pourquoi, si je mets mon angoisse dans les livrets Torah, alors j'échapperai à l'angoisse de l'existence? Comment t'as la tête libre? Encore une fois, il faut que tu dises le raisonnement. Quel raisonnement? Je peux mettre mon angoisse dans les livrets Torah et en même temps je reste angoissé par la vie. Pourquoi l'un enlèverait l'autre? Ah, tu veux dire mettre toute la.
C'est-à-dire les éléments, ils sont plus pour moi étrangers. Bah, voilà, il y a trois mal à barre qui est au bon coin de la rue, je ne les ai pas vus, voilà.
Oui, mais tu laisserais le problème entier en fait, parce que tu peux dire comme ça. Tu veux dire, il faut que tu apprennes à faire en sorte que ta seule angoisse soit dans les livrets Torah. Bon, mais ça revient à ce que tu dis, qu'est-ce que ça change maintenant? Ça veut dire que donc ici tu dois cultiver un autre rapport et là tu dois en mettre la.
Mais c'est sur la question qu'on dit ça. À la limite, la question, elle est, mais par contre, c'est dans la réponse, peut-être, il faudrait toujours le chercher.
Je n'ai pas suivi.
Je me dis, bon, il faut avoir une distance par rapport au parole de la Torah,
ouais.
Ou qui on est à notre niveau, pour considérer que ce qu'on va énoncer, ça correspond à la Torah. Il faut s'emparer des paroles de Torah. Et d'un autre côté, on sait que toute question qu'un écolier ou un trader il va poser, elle a déjà été posée à Moussina, donc elle a une part de émettre.
Moi, j'aime moins attaquer les questions plutôt que les réponses. Tant qu'on est en position de questionner, on n'est pas en train de s'approprier les choses. On s'interroge, on travaille, etc. Moi, ce que je crains plutôt, c'est les réponses. Parce que de toute façon, on a besoin de réponses pour vivre. Pas non plus, genre, on va être toujours dans les questions. On a besoin de réponses pour vivre. Mais, ou même pour faire, tout simplement. Mais c'est là qu'on a qu'on prend un risque. Non, faut que tu précises.
Non, c'est-à-dire que c'est l'illustration de l'art dans le film, c'est l'illustration justement de la personne qui est bloquée. Donc, l'histoire de la base parle beaucoup de blocage.
Ouais.
Donc, c'est-à-dire que ça commence au niveau de la Torah, ensuite ça débouche au niveau de la Torah.
C'est possible. La base qu'on reproche, c'est surtout la pas seulement l'histoire, comment tous les deux se sont comportés, mais c'est le fait avec les Khamim qu'on n'a pas réagi, quoi. C'est qu'ils sont restés.
Il y a eu tout un film. Les acteurs sont positifs.
Ouais.
Mais toujours dans un système de blocage.
Possible. Vous avez dit, j'ai pas vraiment réfléchi à cette marée là-bas. Parce que, ouais. Je vois, mais j'ai pas de. Je sais pas, il faudrait faire la gmara. Je peux pas répondre comme ça sur un pied. Ouais. Oui, je vous rappelle. C'était possible, mais pas dans ça, qu'on peut dire comme ça sur le pasouk. Mais là, l'idée c'est que non, il dit Mouftahri, je suis sûr que c'est pas chez moi. Donc c'est pour ça que je crains pas les mauvaises nouvelles. Pas au sens où toute chose qui peut m'arriver, Gamzoul et Tova, ça aussi ce sera en bien. Non, il m'arrivera rien de mal, a priori. Ça tout fait le côté, comment dire, stupéfiant de cette Gemara. Du coup, avec du pasouk lui-même, du verset de. On aurait pu dire, on n'est pas obligé de dire comme ça. Mais la Gemara, comme elle articule les deux, elle a l'air de dire non, il craint même pas qu'il lui arrive une mauvaise nouvelle, c'est-à-dire qu'il lui arrive quelque chose de mal. Oui, vous voulez dire ?
Normalement, en tant que cadre, on est assuré qu'on n'aura pas de malheur.
dans la. Dans... Je vous dis parce que ce qui est embarrassant dans tout le dans la Gemara et dans le Passouk, c'est très radicalisé en fait. C'est pas juste comment dire avoir laissé une place à l'incertitude, etc. C'est le Passouk, il a dit l'air de dire Hashem befaret tamid. Si je prends dans votre langage, c'est heureux l'homme qui vit en permanence en incertitude. Si je prends votre langage, vas-y. Le problème, c'est pas une pour moi, c'est ça tout le travail de la difficulté dans ce Passouk, dans cette Gemara, c'est que arriver à une lecture à 10, 15, 20% du pasouk, c'est possible, c'est pas grave. Mais le problème, c'est que si on veut vraiment le prendre tel qu'il est énoncé, on est obligé d'arriver à des choses extrêmes. Et ça, toute la difficulté. Alors évidemment, ça paraît, comment on peut dire d'un homme qui vit en permanence dans l'incertitude. Pourtant, ce qui est sûr en tout cas, c'est que disons, la Torah supporte ça. La Torah, c'est un monde de controverses. Donc elle supporte ça, cette incertitude. C'est une chose qu'on n'est peut-être pas, toujours sensible, mais il y a des controverses jusqu'au chronologue de la Torah, jusqu'au principe fondamental de la Torah, il y a des controverses. La Torah supporte ça. Elle supporte qu'il y ait des avis divergents, différents, etc. Donc c'est pas, on va dire comme ça, par rapport au livre de Torah, c'est pas complètement hors de... Dans la vie humaine, la vie sociale... même dans la pratique en général des choses, vous savez, les controverses, c'est en général assez pénible. On demande une ligne de conduite, un comportement. Si on avait deux codes de la route en controverse en permanence, je ne verrais pas les accidents. Donc, un code de la route. Mais quand on est au niveau des paroles de la Torah elle-même, dans l'étude, la réflexion, l'enseignement, tout ça, non, c'est un monde qui supporte parfaitement l'incertitude, parce que c'est un monde de controverses illimitées. C'est pas en soi, quand on réfléchit, c'est pas étonnant qu'on puisse dire qu'il y a une place majeure et qu'il faudrait peut-être faire une place majeure à l'incertitude, je suis dans vos mots, à l'incertitude dans la Torah, dans les paroles de Torah, et qu'en revanche, dans la vie, elle n'a pas sa place. Nous, on sait très bien que toute incertitude dans la vie, elle nous coûte cher. Prudence, c'est une chose. Incertitude, ça signifie que ça me paralyse. J'arrive à faire cette blague. J'ai raté. Je suis heureux de ce qui est ici. J'ai raté ma blague.
Prochaine séance du séminaire, donc la semaine prochaine avec Jean-Claude Barlet. Et donc, très bientôt, vous pourrez retrouver la conférence d'Eric Milevitch sur le livre, c'est-à-dire sur le site Berbuchet, dans la rubrique du séminaire.
Soit c'est l'angoisse.